Statue de Mary Dyer, l'une des quatre Quakers assassinées par les puritains de Boston, par Sylvia Shaw Judson. Je suis venue faire la volonté de mon père et, dans l'obéissance à sa volonté, je tiens bon jusqu'à la mort. Parole de Mary Dyer sur l'échafaud. Quiconque vous tuera pensera rendre un service à Dieu. Jean 16, 2. Car vous avez été appelés à cela, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pie 2, 21. Le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué ou pour obtenir une référence scripturaire ou un détail dans les écrits. Lorsque vous avez cliqué vers la Bible en ligne, vous pouvez modifier et mettre à jour afin de voir n'importe quelle version de la Bible que vous préférez. Les persécutions des premiers Quakers en Amérique. Introduction de l'éditeur du site Les Puritains de la Nouvelle-Angleterre, en particulier ceux du Connecticut et du Massachusetts, surpassèrent les persécutions que les Quakers avaient connues en Angleterre, principalement en pendant trois Quakers et une Quake. 23 autres Quakers devaient être pendus avant que le roi d'Angleterre n'intervienne. On pourrait croire que les Puritains, après avoir eux-mêmes échappé aux persécutions en fuyant vers la Nouvelle-Angleterre, auraient été plus tolérants. Mais, comme vous le verrez, leur esprit d'autosatisfaction religieuse s'acharnait avec férocité contre toute opinion religieuse divergente, et comme les Quakers étaient bien plus convaincants que toute autre secte, avec leur doctrine non traditionnelle, ils furent persécutés avec la plus grande brutalité. La brutalité insensible et non chrétienne des persécuteurs puritains n'a été dépassée que par les prêtres des barbares inquisitions catholiques romaines, qui assassinèrent 9 millions d'âmes au Moyen Âge. Les puritains meurtriers et les prêtres catholiques croyaient tous en Jésus, avaient été baptisés, prenaient la communion, lisaient fréquemment la Bible, priaient fréquemment, assistaient régulièrement aux offices. C'étaient tous des chrétiens sauvés qui tuaient et torturaient ceux qui avaient des opinions religieuses différentes. Il est donc simple de conclure, si vous voulez comprendre le véritable christianisme, étudiez ce qu'ont dit ceux qui furent les victimes. Peu pourraient soutenir que les meurtriers pouvaient être des chrétiens. Jésus nous a dit que de faux prophètes viendraient, des loups déguisés en brebis, et il a dit que nous les reconnaîtrions à leurs fruits. Assurément, nous pouvons tous comprendre que ceux qui fouettent, lapident, mutilent et tuent sont les loups, tandis que ceux qui souffrent en priant pour leurs persécuteurs sont les vraies brebis. Et Jésus nous a dit que ces véritables brebis seraient haïs, persécutés et même tués par ceux qui pensent rendre service à Dieu. En étudiant sur ce site le message évangélique des premiers agneaux de Dieu Quakers, massivement persécutés par les baptistes, les épiscopaliens, les presbytériens et les puritains congrégationalistes, vous pourrez découvrir la vérité de ce que prêchaient les Quakers. Pour comprendre pourquoi les Quakers furent si sévèrement persécutés, cliquez ici. Le nombre des premiers Quakers persécutés en Amérique était de plusieurs ordres de grandeur inférieur à celui des persécutés en Angleterre, parce que la population de la Nouvelle-Angleterre coloniale des débuts ne représentait qu'une petite fraction de celle de l'Angleterre, mais la brutalité en Amérique dépassa celle de l'Angleterre. En outre, l'expérience des premiers Quakers en Amérique retrace de manière unique l'obéissance dévouée, non seulement d'hommes, mais de nombreuses femmes Quakers, âgées de 11 ans à 70 ans, envoyées par le Seigneur pour éteindre les feux de la persécution avec leur sang. En lisant ces récits de persécution, remarquez comment ce furent les prédicateurs et les ministres, comme c'était aussi le cas en Angleterre, qui furent les principaux promoteurs de la violence, y compris la mise à mort, incitant souvent des responsables gouvernementaux réticents à dépasser les limites humaines pour plonger dans les profondeurs de la barbarie satanique. Jean Calvin, l'un des principaux fondateurs du protestantisme, encore révéré par de nombreuses sectes protestantes, contraint les citoyens de Genève à assister aux offices, sous une lourde menace de punition par la mort ou l'expulsion. Parce que Michel Servet avait contesté les écrits doctrinaux de Calvin, Calvin fit inculper et arrêter Servet pour hérésie, le refus de Servet du baptême des enfants et de la Trinité, ce qui conduisit à ce que Servet soit lentement brûlé au bûcher avec du bois vert. Jacques Gruet, opposant notoire de Calvin, fut arrêté, torturé pendant un mois et décapité le 26/07/1547, pour avoir placé une lettre dans la chair de Calvin le traitant d'hypocrite. Calvin fit aussi brûler au bûcher 34 femmes comme sorcières, accusées d'être responsables d'une peste. On attribue à sa théocratie à Genève 76 exils et un total de 58 condamnations à mort après torture pour obtenir leur confession. Calvin justifia la torture et l'exécution des hérétiques, écrivant « Quiconque soutient qu'on fait tort aux hérétiques et aux blasphémateurs en les punissant se rend complice de leurs crimes et coupable comme eux. Il ne s'agit pas ici de l'autorité de l'homme, c'est Dieu qui parle, et il est clair quelle loi il veut voir garder dans l'Église jusqu'à la fin du monde. Pourquoi donc exige-t-il de nous une sévérité si extrême, sinon pour nous montrer qu'on ne lui rend pas l'honneur dû, de sorte que nous n'épargnons ni parenté ni le sang de quiconque, et que nous oublions toute humanité quand il s'agit de combattre pour sa gloire. Les apologistes de Calvin, qui versent le sang et oublient toute humanité, font valoir que beaucoup d'autres protestants ont aussi tué des hérétiques, la défense du « tout le monde le faisait ». Ce récit des persécutions puritaines prouve encore davantage la croyance des Quakers selon laquelle la religion et le gouvernement ne devraient pas se mêler. Fox et les premiers Quakers avaient pour principe de ne pas se mêler des pouvoirs de la terre, comme dans l'Apocalypse, l'Église adultérée avec les rois de la terre, comme Martin Lloyd, pour se protéger d'une arrestation romaine, donna son assentiment à une alliance entre l'Église et l'État en Saxe, comme les gouvernements de la Nouvelle-Angleterre coloniale créèrent un État religieux. Tout cela aboutit à des tyrannies et à d'horribles corruptions des enseignements et des commandements du Christ. Pour l'essentiel, ces pages web sont un extrait de The History of the Society of Free and in America, 1850 de James Bowden, excellent historien et Quaker, qui, bien que fier de son héritage Quaker, comme la plupart des Quakers à partir de 1800, n'avait aucune idée de la mesure de Christ possédée par les premiers Quakers en 1650-1700. Dans quelques passages notables, j'ai utilisé le texte plus descriptif de The History of the Rise, Increase and Progress of the Christian People Called Quakers, 1844, de William Sewall, d'abord écrit en 1695. Sewall était lui-même Quaker et interrogea de nombreux témoins oculaires des événements qu'il relata. Décrivant la vengeance de Dieu sur Boston, j'ai également extrait et signalé du texte provenant de Narrative of the Martyrdom at Boston, de John Richardson, 1831. Dans le texte de Bowden, j'ai supprimé les détails, pour la plupart infructueux, concernant la colonisation de l'Amérique, afin de commencer par la colonisation puritaine de la Nouvelle-Angleterre, et j'ai arrêté le texte à la cessation de leur persécution vicieuse. Le texte a été largement mis à jour selon l'usage actuel, j'ai ajouté du texte délimité par des accolades. La plupart des citations directes étaient en notes dans l'ouvrage original, mais pour faciliter la lecture, les notes ont été supprimées, la grande majorité étant des références à Bessie's Sufferings, New England Judged, Norton's Ensign, Secret Works, Colonial Record, aux manuscrits originaux de Swarthmore, Hutchinson's Massachusetts, Secret Works, comme au Journal in Kennet, Journal of the Lord, F. Haugel's Popish Inquisition, Sewall's History, Call from Death to Life, J. Bancroft's United States, Crowe's General History of the Quakers, et aux manuscrits originaux de Will Catton. La plupart de ces livres ont aujourd'hui disparu. Si vous voulez voir le texte original avec les notes, il est également disponible en consultation au format PDF pour la version en ligne de ce site. Les prédécesseurs puritains normalement, j'exclurais des détails tels que ceux qui suivent sur les puritains en prélude à leur persécution, mais les faits rapportés aident à comprendre leur intolérance religieuse et comment elle prit des proportions monstrueuses, avec de cruels coups de fouet, des mutilations et la mort par pendaison. Si vous préférez sauter l'histoire de l'évolution des puritains vers leur esprit brutal de persécution et aller directement aux persécutions des Quakers, cliquez ici. Pendant plus d'un siècle après la découverte du Nouveau Monde, les Anglais avaient abordé ces rivages, à proprement parler, avec une poignée de gens seulement. Après des échecs répétés, la colonisation de la Virginie, sous la direction de la Compagnie de Londres, fit naître de grandes espérances, mais il revint aux puritains de donner la plus forte impulsion au courant d'émigration vers le nouveau pays. La réforme en Angleterre n'avait jamais été accompagnée d'une pleine tolérance du sentiment individuel en matière de religion, et c'est à cette époque que l'on peut dater l'établissement des colonies en Nouvelle-Angleterre. Les émigrants non conformistes vers cette région étaient des individus qui plaidaient pour une réforme religieuse plus complète que celle reconnue par la reine Elizabeth. Ils étaient mécontents de la pompe de l'Église anglicane et la considéraient comme un vestige de l'apostasie romaine. L'usage des orgues et d'autres instruments de musique dans le culte public, l'interdiction de la prière improvisée, l'inclination à l'énoncé du nom de Jésus, l'usage du surplis et d'autres vêtements sacerdotaux, ainsi que la liturgie et les diverses distinctions de rang parmi les ministres du culte, comptaient parmi les principaux motifs de dissidence de cette classe de réformateurs anglais. Les protestants d'Angleterre se trouvèrent ainsi divisés en deux parties, l'un plaidant pour une plus grande pureté et simplicité dans l'Église, l'autre pour une conformité entière à la religion réformée telle que reconnue par la loi. Le second, étant le plus puissant des deux, eut bientôt recours au pouvoir civil pour imposer ses vues. En 1554, un acte de conformité fut adopté et à l'instigation d'Elizabeth, en 1593, un autre acte d'une plus grande sévérité suivit, comprenant des dispositions de peines et d'emprisonnement, et même de châtiment capital, contre ceux qui refusaient de se conformer aux usages de l'Église établis par la loi. Les mesures prises pour imposer la conformité à l'Église anglicane poussèrent le parti puritain à parler ouvertement de sécession, et finalement, en 1572, il forma une congrégation séparée. Les lois contre les non-conformistes furent alors appliquées avec cruauté, un grand nombre furent bannis du pays, et deux furent même pendus à Tyburn. Les puritains persécutés, constatant que la Hollande leur offrait un refuge, s'y enfuirent, et une congrégation d'entre eux se forma à Amsterdam, mais les mariages de leurs membres avec des familles néerlandaises diminuèrent leur nombre, et cela, avec d'autres considérations, amena la plupart des plus jeunes de leur église à décider de partir pour l'Amérique. Une demande de concession de terres fut en conséquence obtenue et fut approuvée par le roi Jacques, mais il refusa de prendre quelque engagement que ce soit quant au libre exercice de leur religion, disant que s'ils se tenaient tranquilles, aucune enquête ne serait menée. À l'été 1620, 100 personnes, possédant environ 2400 livres de biens et de provisions, s'embarquèrent comme exilés, cherchant un nouveau foyer sur les rivages occidentaux de l'Atlantique. Après un voyage de 2 mois, ils arrivèrent dans le port de Cape Cod, en vue de la partie la plus stérile du Massachusetts. Le pays où ils débarquèrent avait été, quelques années auparavant, rendu désert et solitaire par une pestilence qui l'avait ravagé. On trouva des wigwams, mais leurs occupants avaient disparu. La fumée qui montait au loin indiquait toutefois que l'Indien n'était pas loin, fait bientôt confirmé par le cri de guerre, car les autochtones ne connaissaient l'Européen que comme le ravisseur de leur peuple. Après avoir exploré le pays, les émigrants choisirent un endroit comme le plus propice pour fonder une implantation et lui donnèrent le nom de Plymouth. L'hiver se passa dans l'endurance d'une extrême privation, et avant que le soleil d'un autre été eût brillé sur la petite communauté, la moitié des leurs avait achevé sa carrière terrestre. Dans une supposée imitation des premiers chrétiens, ces pères pèlerins adoptèrent une communauté de biens comme base de leur système, mais ils découvrirent à leurs dépens qu'elle était mal adaptée à leurs conditions. Le travail était accompli avec une disposition si languissante que, dans certains cas, on recourut au fouet comme contrainte nécessaire asterisque l'année suivante, la colonie fut renforcée par l'arrivée de nouveaux émigrants. Pendant au moins 3 années après le débarquement des puritains en Nouvelle-Angleterre, ils durent subir de grandes épreuves qu'ils supportèrent avec beaucoup de courage et l'implantation se développa. En 10 ans, elle était florissante et comptait 300 habitants. Asterisque ainsi, la première expérience de socialisme sur le sol américain échoua, car à moins qu'un homme ne puisse conserver le fruit de son travail, il ne travaillera pas. Dans l'Israël ancien, il existait une propriété privée et un homme pouvait garder le fruit de son travail. Pour subvenir aux besoins des veuves et des orphelins, Dieu commanda la dîme, 10% des récoltes, à remettre au sacerdoce de Lévi, qui redistribuait ensuite à ceux qui étaient dans le besoin. Bien sûr, si tous les membres d'une société sont parfaits, totalement altruistes, alors n'importe quel système économique fonctionne. Mais avec des personnes imparfaites, aux motivations égoïstes, le fruit de leur travail est leur seule motivation à travailler. L'Église chrétienne primitive acceptait des contributions volontaires de tous, qui étaient ensuite distribuées à ceux qui étaient dans le besoin, mais ce n'était pas une société collective obligatoire. Nous avons le récit d'un couple apportant le produit de la vente d'une propriété, prétendant qu'il offrait la totalité du montant. Pierre les réprimanda, leur disant qu'ils auraient pu conserver la somme qu'ils voulaient, mais puisqu'ils avaient menti au Saint-Esprit, ils furent détruits pour l'exemple. Chez les premiers Quakers, il n'y avait pas de mendiants, des collectes étaient faites pour distribuer aux pauvres, mettre en apprentissage des orphelins et secourir d'autres assemblées moins aisées à travers le monde, mais ils ne vivaient pas dans une société collective, pas plus que l'Église primitive. La détermination des dirigeants de l'Église épiscopale anglaise à persister dans l'application des lois faites contre la dissidence et les efforts incessants de l'archevêque Laud pour introduire un rituel plus pompeux, accompagné d'un système inquisitorial d'une grande sévérité contre les non-conformistes, augmentèrent le désir des puritains persécutés d'émigrer en Amérique. La réticence que beaucoup éprouvaient à échanger la terre natale contre les terres sauvages du Nouveau Monde fut surmontée par les persécutions auxquelles ils étaient soumis, et une association visant à promouvoir l'émigration vers la Nouvelle-Angleterre fut constituée à grande échelle. Des hommes de rang et d'influence, ainsi que des ministres puritains expulsés jouissant d'une haute considération, encouragèrent l'entreprise, et l'on demanda au gouvernement une concession de terre. La cour n'était pas opposée au projet, et un brevet fut obtenu pour le gouverneur et la compagnie de la baie du Massachusetts. Les préparatifs d'embarquement ayant été faits, les émigrants, au nombre de plus de 200, prirent la mer à bord de six navires. Au sixième mois 1629, ils atteignirent la côte du Massachusetts et débarquèrent en un lieu qu'ils nommèrent Salem. Certains colons démunis, environ une centaine, s'étaient déjà installés à cet endroit et au total, la jeune colonie comptait 300 âmes. Les premiers colons de Salem, comme ceux de la colonie de Plymouth, souffrirent de grandes détresses et, avant le printemps suivant, plus de 80 des leurs étaient morts. Mais les rapports transmis en Angleterre donnaient une description encourageante du nouveau pays et le sentiment en faveur de l'émigration s'intensifia parmi les non-conformistes. L'année suivante, des préparatifs furent faits à une échelle encore plus grande et pas moins de 1500 personnes débarquèrent sur les rives du Massachusetts, dont beaucoup étaient riches et instruites. Le désir de cette terre lointaine continua de croître et année après année, des masses de dissides anglais des classes les plus respectables se rendirent en Nouvelle-Angleterre. Nil ne doute pas qu'en quelques années un quart des biens du royaume aurait été emporté en Amérique si aucune résistance n'avait été opposée. Mais le gouvernement s'alarma et une proclamation fut publiée pour réprimer le transport désordonné des sujets de Sa Majesté en raison des nombreux esprits oisifs et rétifs dont l'unique ou principal but est de vivre hors de portée de l'autorité. Le lendemain, un ordre parut pour arrêter 8 navires actuellement sur la Tamise, prêts à partir pour la Nouvelle-Angleterre, et les passagers, parmi lesquels se trouvait Oliver Cromwell Astérisque, furent contraints de débarquer. Bien qu'un frein considérable fût ainsi mis à l'émigration par l'intervention du pouvoir civil, de grands nombres continuèrent néanmoins à trouver leur chemin vers le Massachusetts. On estime que, durant 12 ans, les émigrants furent au moins au nombre de 21 000. Astérisque l'ironie de les avoir forcés à faire rester Cromwell en Angleterre et qu'il dirigea ensuite la guerre civile victorieuse des parlementaires puritains pour déposer le roi Charlier et établir un gouvernement entièrement puritain. Ayant échappé à une persécution harcelante et injuste dans leur pays natal, on aurait pu s'attendre à ce que les colons de Nouvelle-Angleterre reconnaissent la liberté religieuse comme base de leur système. Mais aucune idée de ce genre, semble-t-il, ne fut jamais entretenue par eux. L'objectif exprès des puritains, en cherchant à fonder une colonie en Amérique, était de pouvoir jouir du libre exercice de leur religion. La charte, cependant, est entièrement muette sur le sujet. Le roi considérait les émigrants comme une compagnie commerciale et il leur était interdit d'établir une loi ou une ordonnance contraire au statut du royaume. L'interprétation raisonnable de la charte est que la dissidence totale à l'égard de l'Église d'Angleterre ne devait pas être admise et il ne semble pas que le gouvernement anglais, en l'accordant, ait jamais anticipé que les puritains insisteraient sur une séparation de l'Église et de l'État, ou que leur propre religion, tant en doctrine qu'en discipline, serait la seule tolérée au Massachusetts. Ces réformateurs sévères et inflexibles étaient toutefois résolus à ce que ni l'apostasie romaine, ni les corruptions de l'Église d'Angleterre ne trouvent de tolérance dans les limites de leur juridiction. Le culte du livre de la prière commune et l'épiscopat, il les jugeait incompatibles avec cette liberté religieuse pour la jouissance de laquelle, fût-ce dans une contrée sauvage de l'Ouest, ils avaient quitté les demeures de leurs ancêtres et ils décidèrent hardiment d'en empêcher l'introduction parmi les colons. Leur imposition, déclaraient-ils, serait une violation pécheresse du culte de Dieu. Ils croyaient que l'union religieuse était leur bastion contre les attaques de la hiérarchie en Angleterre et l'ordre des églises devait être maintenu coûte que coûte, les frères seuls devaient être le peuple de leur pays, et toute dissidence à l'égard de leurs propres croyances et de leur forme de culte devait être châtiée par le bras fort de l'autorité des magistrats, ministres et dirigeants considérant toute innovation à leurs principes comme dangereuse pour la communauté. Dudley, l'un des gouverneurs les plus respectés de la province, fut trouvé à sa mort avec une copie de vers dans sa poche, où figurent ces lignes, « Que les hommes de Dieu, aux cours et dans les églises, veillent sur ce qui couvre une tolération ». Les puritains se plaisaient à concevoir que les pures doctrines du christianisme devaient, par leur instrument, être mises en pratique, et que le monde civilisé devait trouver, dans la Nouvelle-Angleterre puritaine, un exemple d'église affranchie de toutes les souillures qui s'étaient peu à peu glissées dans la chrétienté. Que cela ait constitué l'objectif principal et l'intention consciencieuse des pères pèlerins en émigrant vers la Nouvelle-Angleterre ne saurait être mis en doute. Le caractère de ces émigrants était sans aucun doute bien au-dessus de la moyenne de la population britannique, quant à la sobriété, aux habitudes de travail et à l'intégrité générale de la conduite. « Dieu a passé 3 royaumes au crible », disait l'un de leurs premiers gouverneurs, pour apporter un grain choisi dans cette wilderness. Malgré leur attachement bigot à leur propre doctrine et les erreurs qu'ils commirent en matière de tolérance religieuse, les preuves abondent que les premiers puritains de Nouvelle-Angleterre étaient pour la plupart des gens consciencieux, s'efforçant d'être pieux, mais se distinguant par quelques particularités marquantes. La pratique consistant à remplacer des prénoms anglais par des noms hébreux, des termes spirituels, et même des passages d'écriture, en était une, et de ce fait peut-être retracer la prévalence des noms de l'Ancien Testament en Nouvelle-Angleterre à l'époque actuelle. Le système que les puritains entendaient suivre en Amérique en matière de religion était inattendu pour la nation anglaise, et s'il avait été pleinement connu, nul, assurément, hormis ceux de leur propre profession, ne se serait joint à l'émigration. Il arriva toutefois que, dans le groupe parti en 1629, deux personnes nommées membres du conseil colonial par la compagnie étaient épiscopaliens, et celles-ci, refusant de s'unir au père dans leur mode de culte, réunirent à Salem un groupe de colons désireux de maintenir les formes et cérémonies de l'Église d'Angleterre. Cette circonstance surprit les puritains, mais ferme dans leur conclusion, ils décidèrent d'affronter le mal supposé avec une main de fer. Les deux législateurs épiscopaliens, après avoir été accusés d'être des espions dans le camp et s'être vus interdire l'exercice de leur religion au Massachusetts, furent arrêtés et, au retour des navires, renvoyés en Angleterre. Ce fut le premier acte d'intolérance puritaine en Nouvelle-Angleterre, et s'il avait été le seul, l'Église chrétienne eût été épargnée de certains de ses sombres excès. Le système exclusif des puritains en Amérique, maintenu avec la plus grande sévérité, eut ses opposants. Parmi ces rigoristes, il y avait des hommes éclairés qui voyaient qu'il était contraire à l'esprit de la vraie religion. Roger Williams de Salem, un jeune ministre pieux réputé et zélé, appartenait à cette classe, et ne craignent pas de déclarer avec hardiesse que « la doctrine de la persécution pour cause de conscience est très manifestement et lamentablement contraire à la doctrine du Christ ». On insistait pour que chaque homme fût présent au culte public en Nouvelle-Angleterre, mais Roger Williams soutenait que c'était une atteinte au droit naturel du sujet. Des doctrines ainsi ouvertement professées et diffusées furent considérées comme une trahison par les ministres du Massachusetts et finalement, en 1635, les magistrats résolurent de bannir Williams comme perturbateur de l'ordre de l'Église et de l'État. Exilé de ses amis, Roger Williams chercha refuge auprès des Indiens de la baie de Narragansett. Ils le reçurent avec joie. « Les corbeaux, remarqua-t-il, m'ont nourri dans le désert. » Il résolut de fonder une nouvelle colonie et, reconnaissant les droits de l'habitant autochtone sur la terre, il acheta un territoire et établit une nouvelle colonie. Roger Williams devint ainsi le fondateur d'une plantation américaine et, suivant une voie éclairée et chrétienne, il la fonda sur les principes d'une liberté religieuse absolue. Un emplacement ayant été choisi pour l'implantation, il commença à bâtir et, en commémoration des bontés du Trésor, il l'appela Providence, souhaitant qu'elle fût un refuge pour les personnes à la conscience affligée. La politique libérale du fondateur de cette implantation fut dûment appréciée, et il eut bientôt la satisfaction d'accueillir dans les terres sauvages de Narragansett des gens pieux d'Angleterre, qui voyaient une main particulière de la Providence dans l'élévation de cette plantation, et dont le cœur fut ému de traverser l'océan. Sa population anglaise augmenta donc rapidement. À peine les premières demeures de Providence furent-elles occupées par les exilés du Massachusetts que cette colonie intolérante fut frappée d'un nouveau schisme. Une secte calviniste, estimant que les puritains de Nouvelle-Angleterre mettaient une confiance dangereuse dans la rigueur et la sévérité de leur vie pour obtenir le salut, et que la doctrine de la justification par la foi seule constituait le véritable fondement de l'espérance du chrétien, donna naissance à cette division. Anne Hutchinson, femme d'une grande éloquence et d'un grand talent, fut la dirigeante de ces antinomiens Astérisque et Ravivan, alors gouverneur de la province et qui devint ensuite si éminent en Angleterre, s'identifia à leur cause. Une controverse furieuse éclata entre les ministres puritains et les Hutchinsoniens. Les premiers réunirent un synode qui, après avoir proclamé l'orthodoxie de l'Église de Nouvelle-Angleterre, entreprit de dénoncer Anne Hutchinson et son parti comme « inaptes à la société » et de les exiler de la province. La plus grande partie de la nouvelle secte, menée par William Coddington, partit vers le sud en 1637 et, avec l'aide de Roger Williams, réussit à acheter aux Indiens Narragansett le pittoresque petit territoire de Rhode Island. Une autre colonie fut ainsi fondée et Coddington en fut choisi comme gouverneur. Le grand principe de la liberté de conscience y fut pleinement reconnu dans la Constitution, puisqu'il fut convenu que nul ne serait tenu pour délinquant en raison de sa doctrine. Astérisque Méridier, qui devint plus tard Quake et qui est une héroïne de cet écrit, fut l'une des antinomiens chassés du Massachusetts et contraints à l'exil à Rhode Island. Les puritains étaient convaincus que quiconque avait une opinion religieuse différente de la leur était évidemment possédé par Satan, et après l'exil de Méridier, ils déterrèrent le corps de son enfant mort-né, l'exhibèrent largement et montrèrent toute irrégularité du cadavre comme preuve qu'il s'agissait de l'enfant d'une sorcière et d'une adoratrice du diable. Triste, triste, triste. Les colonies de Providence et de Rhode Island n'avaient pas obtenu une existence politique garantie par une charte de la mère patrie, et par conséquent, furent exclues de l'union coloniale de la Nouvelle-Angleterre. Les colons, estimant que leur existence en tant que province distincte dépendait de la protection d'une charte, nommèrent Roger Williams en 1643 pour se rendre en Angleterre afin d'en obtenir une. Sir Alivan Astérisque, alors membre influent du Parlement, appuya la demande et, grâce à ses efforts, une charte fut obtenue, incorporant les deux colonies sous le titre de Rhode Island. Astérisque Van fut l'un des très rares sympathisants des requêtes des Quakers au Parlement pour faire cesser les persécutions. Il était républicain, allié à Cromwell dans la guerre civile, mais en désaccord avec Cromwell sur les détails du gouvernement. Il fut exécuté au retour du roi. Les habitants de la nouvelle province goûtèrent alors, avec bonheur, aux bienfaits de la liberté de conscience. « Nous n'avons pas ressenti, disaient-ils en 1654, dans une adresse à leur protecteur Sir Henry Van, le joug de fer des évêques aux instincts de loup, ni les nouvelles chaînes des tyrans presbytériens, et dans cette colonie, nous n'avons pas été consumés par le feu trop zélé du magistrat chrétien dit pieux. Nous ne savons pas ce que signifie un impôt d'accise, nous avons presque oublié ce qu'est la dîme. Telle fut l'heureuse expérience des premiers habitants de Rhode Island. En revenant aux colonies du Massachusetts, nous constatons que, quelques années après l'expulsion des antinomiens, l'anabaptisme apparut et troubla le puritain intolérant. Le refus, de la part des baptistes, du baptême des enfants, ainsi que la tenue de réunions séparées, furent qualifiés de « dresser un autel à eux contre l'autel de Dieu ».« Dieu nous garde », dit Dudley dans sa vieillesse, « de tolérer les erreurs. Dire que les hommes doivent avoir la liberté de conscience est une ignorance impie », dit un autre. « La religion, répliqua le prêtre notoire Norton, n'admet aucune notion excentrique. L'anabaptiste consciencieux n'obtint aucune indulgence, et des amendes, des coups de fouet et finalement, des bannissements débarrassèrent le Massachusetts de sa population baptiste. Comment alors s'étonner que, dans la Nouvelle-Angleterre puritaine, le cacrisme ait attiré une persécution plus sévère ? Le territoire du New Hampshire fut constitué en colonie en 1622, ses progrès furent toutefois lents. Les habitants étaient principalement des puritains du Massachusetts, qui revendiquaient le droit de juridiction sur le district, et en 1642, il fut annexé à cette colonie, mais en 1679, il reçut une charte distincte et devint une autre province. La vallée du Connecticut, par sa fertilité alluviale, attira tôt des colons du Massachusetts. En 1635, une compagnie de 60 pèlerins émigra encore à travers les forêts vers ce pays, et l'année suivante, lorsque des nombres encore plus importants y trouvèrent leur chemin, le gouvernement du Connecticut fut établi sous les auspices de Winthrop. Le commerce des fourrures attira aussi beaucoup de personnes à s'installer sur les rives de sa noble rivière, c'était principalement des Hollandais de la Nouvelle-Amsterdam. En 1662, la colonie obtint une charte de Charlie. Peu après le début de l'émigration vers le Connecticut, une colonie se forma à New Haven sous l'égide puritaine. Toutefois, elle n'obtint jamais de charte, mais fut incorporée à la première au sein d'un seul gouvernement. Le pays comprenant la province de New York semble avoir été visité pour la première fois par Henry Hudson en 1609, alors au service des Hollandais. Cette entreprise amena la nation hollandaise à revendiquer le pays voisin de la rivière qui porte le nom de ce navigateur, et l'année suivante, quelques marchands d'Amsterdam commerçaient avec les Indiens sur les rives du détroit de Long Island, et quelques années plus tard, des marchands de fourrures hollandais s'établirent sur l'île de Manhattan. En 1621, la Compagnie hollandaise des Indes occidentales obtint une charte pour établir des colonies en Amérique, et quatre ans plus tard, plusieurs habitations de personnes venues y poursuivre le commerce des fourrures furent érigées à l'emplacement de l'actuelle ville de New York. Par la suite, tout le pays s'étendant du Maryland à la Nouvelle-Angleterre fut revendiqué par les Hollandais. En colonisant ce pays, alors appelé Nouvelle-Néerlande, la Compagnie hollandaise des Indes occidentales reconnut la tolérance religieuse. Que chaque citoyen paisible, écrivirent les directeurs depuis Amsterdam, jouisse de la liberté de conscience, cette maxime a fait de notre ville l'asile des fugitifs de tous les pays, suivez ses pas et vous serez bénis. La liberté ainsi accordée attira des personnes de diverses régions d'Europe, et la colonie hollandaise devint bientôt un foyer non seulement pour des Anglais, des Français et des Belges, mais aussi pour des Allemands, des Bohémiens, des Suisses et des Italiens. Les protestants français arrivèrent en si grand nombre que des documents officiels furent parfois publiés dans leur langue, ainsi qu'en néerlandais et en anglais. La législation éclairée de la Nouvelle-Néerlande forme une tache lumineuse dans la colonisation de l'Amérique, et n'eût été la conduite de son gouverneur, le calviniste Stuyvesant, qui persécuta certains luthériens et quakers, la tolérance religieuse y aurait été complète. La durée de la puissance hollandaise en Amérique fut toutefois brève. Dans une guerre contre les Anglais en 1664, elle fut perdue, et un démembrement de la Nouvelle-Néerlande s'ensuivit comme réparation de guerre. James, duc d'York et frère de Charles, y reçut les nouvelles terres. Le pays allait du Delaware fut attribué à Lord Berkeley et à Sir George Carteret, tous deux propriétaires en Caroline, et il reçut alors le nom de New Jersey. La colonisation du Delaware commença en 1631, lorsqu'environ 30 Hollandais formèrent une implantation près de Lewistown, et il devint une colonie distincte. Avant que les Européens ne se soient établis sur le sol du Delaware, Gustave Adolphe, roi de Suède, avait conçu une entreprise visant à établir une colonie de son peuple dans le Nouveau Monde, et à son instigation, une compagnie fut constituée à cette fin. Ce ne fut cependant qu'en 1638 que les Scandinaves trouvèrent leur chemin vers le territoire du Delaware. Leur nombre, bien que faible au début, augmenta progressivement, et en 1654, ils comptaient environ 700 colons. À cette date, ils furent conquis par les Hollandais, et la colonie passa sous le contrôle de ce peuple. Les émigrants suédois étaient des protestants d'une piété considérable. Ils prirent grand soin d'éduquer leurs enfants et vécurent en paix avec les Indiens. Le pays attira quelques Anglais de Nouvelle-Angleterre, car l'éclairé Gustave désirait qu'il fût ouvert à toute la chrétienté opprimée. Les récits favorables que les premiers colons de Virginie donnèrent de la fertilité et des ressources du continent occidental augmentèrent l'enthousiasme des Anglais pour les plantations américaines, et ce George Calvert, plus tard Lord Baltimore, membre de la Compagnie de Virginie et homme d'aptitude et d'esprit d'entreprise, participa largement à ce sentiment. Il se convertit au catholicisme romain et, avouant ses opinions, résigna sa charge de secrétaire d'État. Baltimore, en embrassant la foi romaine, conçut l'idée d'émigrer en Amérique, mais les lois de Virginie excluaient les papistes de son territoire. Le pays situé au nord du Potomac étant toutefois encore inhabité par les Anglais, il sollicita en 1632 et obtint de Charles Yé une concession de terre qu'il appela Maryland, en l'honneur d'Henriette Marie, l'épouse du roi. En élaborant les lois de la province, Lord Baltimore décida qu'aucune préférence ne serait accordée à aucune secte. Elle devint un asile pour les papistes, mais l'égalité des droits religieux et la liberté civile furent assurées à tous. La liberté religieuse fut le fondement adopté par le gouverneur du Maryland. « Je ne veux pas, dit-il dans son serment, par moi-même ou par tout autre, directement ou indirectement, inquiéter aucune personne professant croire en Jésus-Christ, à cause de la religion ou au sujet de la religion. » Les institutions libérales de la nouvelle colonie, jointes à la fertilité du sol, attirèrent de nombreux aventuriers. Les forêts solitaires furent bientôt transformées en plantations prospères, et des protestants d'Europe comme des puritains de la Nouvelle-Angleterre affluèrent en nombre considérable en la province. Les troubles de la mère patrie entre Charles et le Parlement puritain étaient suivis avec beaucoup d'intérêt par les papistes du Maryland, et craignant que l'ascendant des puritains ne compromît les privilèges religieux de la colonie, ils résolurent, en 1649, de faire voter une loi pour protéger la liberté de conscience en matière de religion. Malheureusement pour le Maryland, un différend éclata entre Lord Baltimore et Claiborne, homme résolu et entreprenant, qui revendiquait un droit sur la province, au motif d'une concession de la Compagnie de Virginie en 1631, et dans lequel il était soutenu par nombre de colons. Les prétentions opposées des deux parties divisèrent fortement la population, et le sectarisme n'eut pas peu d'influence dans la controverse. Les puritains, qui avaient été accueillis par le gouverneur et à la politique libérale de qui ils devaient un foyer dans la colonie, jetèrent leur influence dans la balance du parti de Claiborne et la firent pencher. Le changement intervenu dans le gouvernement du Maryland fut suivi d'intolérance religieuse, et dans une nouvelle assemblée tenue en 1654, les puritains, sous les auspices de Claiborne, appuyèrent l'adoption d'une loi qui refusait la liberté religieuse à ceux qui professaient la papauté ou l'épiscopat, mais cette mesure ingrate ne fut jamais approuvée par Cromwell. Lord Baltimore, lorsqu'il apprit ces procédés, s'indigna et résolut de faire valoir sa suprématie. Les puritains et les clébornites prirent toutefois les armes et, repoussant les forces du gouverneur, maintinrent leur pouvoir jusqu'à la restauration de la monarchie, lorsque l'autorité de Baltimore fut de nouveau reconnue. La prospérité du Maryland alla en croissant, il était devenu célèbre comme un asile pour les persécutés de toute classe et de tout pays, et des émigrants de France, d'Allemagne, de Hollande, de Suède, du Piémont et de Bohême recherchèrent son sol non sectaire. Dans cette province, remarque un historien moderne, l'empire de la justice et de l'humanité avait été complet, sauf pour les souffrances du peuple appelé Quakers. À l'exception de la désastreuse tentative de Roanoke en 1587, sous les auspices du Desi Raleigh, et de l'établissement en 1650 de quelques planteurs virginiens, ainsi que, quelques années après eux, de quelques hommes de la Nouvelle-Angleterre dans les environs de Cap Fear, il ne semble pas que les Anglais aient fait en Caroline des tentatives de colonisation avant l'année 1667. Mais bien que le courant d'émigration eût été arrêté dans cette direction par l'échec des premières expéditions, la fertilité des terres méridionales de l'Amérique du Nord était encore dans les mémoires, et la Caroline fut constituée en province par une concession de Charles Yi à quelques-uns de ses courtisans les plus influents. Le grand philosophe John Locke Asterisk, qui connaissait intimement le comte de Shaftesbury, l'un des propriétaires, entreprit, à sa sollicitation, de rédiger une constitution pour la nouvelle colonie. Asterisk John Locke fut condisciple de William Penn à Oxford. Plus tard dans la vie, William Penn obtint du roi Jacques une grâce pour son camarade d'université, John Locke, alors exilé en Hollande. Mais le fier philosophe la refusa. Il n'avait rien fait, disait-il, qui nécessitât une grâce. En fixant la forme de son gouvernement, Locke souhaitait manifestement que l'influence aristocratique fût maintenue dans ses conseils, mais il n'en soutenait pas moins la tolérance religieuse. Une clause expresse de la charte ouvrait la voie à sa reconnaissance, et la liberté religieuse pour les juifs, les païens et autres dicides, pour des hommes de toute religion, fut accordée aux colons de Caroline. La constitution, non sectaire de la province fut appréciée et jointe à la fertilité du pays, elle attira non seulement des Anglais et des Irlandais, mais des Hollandais de New York et de Hollande, des Huguenots persécutés de France et des Covenantaires astérisques exilés d'Écosse. Astérisque le « mouvement des Covenantaires » est surtout associé à la promotion et au développement du presbytérianisme comme forme de gouvernement de l'Église favorisée par le peuple, par opposition à l'épiscopat, favorisé par la couronne. En politique, le mouvement connut d'importants développements dans le caractère et le fonctionnement du Parlement écossais, qui commença à s'éloigner progressivement de ses origines médiévales. Les Covenantaires s'opposèrent à Oliver Cromwell et furent vaincus à Dunbar. La reconnaissance de l'esclavage des Noirs dans les « Constitution de Locke pour la colonie méridionale » fut toutefois une tâche profonde dans son système, et si prometteur et fertile que le pays parut, la colonie progressa lentement et avec difficulté. En Caroline du Nord, les colons ne tardèrent pas à s'inquiéter des contraintes politiques du gouvernement, et en 1680, les « Constitutions » furent abandonnées, comme inapplicables à des hommes qui recherchaient un gouvernement plus populaire. Les colons de Caroline du Sud commencèrent eux aussi à sentir que leurs droits étaient restreints par la législation de Locke, et les propriétaires, voyant la futilité de tenter de l'imposer, renoncèrent entièrement au plan du grand philosophe. C'était en 1693, l'année qui précéda l'élection par les propriétaires de John Archdale, Quaker de Chipping Wycombe dans le Buckinghamshire, au poste de gouverneur de la Caroline du Sud. Sous l'administration de le Pacifique Archdale, comme on l'appelle, le médiateur entre factions, la province commença à prospérer, et la renommée de la Caroline, en tant que « canaran américain où coulant le lait et le miel » s'accrut. La colonie, dit son gouverneur Quaker éclairé, se trouvait placée dans l'honneur d'un véritable gouvernement anglais, zélé pour l'accroissement de la vertu aussi bien que du commerce et des affaires extérieures. Les représentants des hommes libres de l'établissement, sensibles à la cause de cet heureux changement, déclarèrent que John Archdale, par sa sagesse et son labeur, avait posé une base solide pour une superstructure des plus glorieuses, et lui votèrent une adresse de remerciement. Ayant maintenant inclus, dans nos pages d'introduction, un récit condensé de la découverte du continent nord-américain et de l'établissement de ses diverses colonies européennes, jusqu'à presque la fin du XVIIIe siècle, il ne sera peut-être pas inopportun, avant de quitter le sujet, de récapituler brièvement les principaux points de l'histoire. Nous avons vu que les tentatives des nations portugais et espagnoles d'acquisition territoriale dans cette partie du monde occidental furent des échecs, que les Français, plus heureux dans leur effort, avaient formé des établissements d'une étendue considérable dans la région aujourd'hui connue sous le nom de Canada, que les entrepreneurs hollandais s'étaient établis en assez grand nombre sur les rives de l'île Hudson, et que des Suédois protestants encouragés par Gustave, leur roi, occupaient les deux rives droite et gauche du Delaware. Mais nous avons. L'un des principaux objets de ce récit introductif est de montrer le caractère moral et religieux des diverses provinces à l'époque considérée, ainsi que le degré de tolérance religieuse que chacune reconnaissait. La Virginie, premier établissement permanent des Anglais, fondée en 1607, fut colonisée par une catégorie d'hommes appartenant pour la plupart à la haute église anglicane, qui se rendirent dans le nouveau pays avec d'extravagantes espérances de richesse. Pendant le premier demi-siècle, ils refusèrent de permettre l'exercice de toute religion autre que l'épiscopat, mais à partir du Commonwealth, leurs vues sur la tolérance religieuse se modifièrent et, sauf la loi de 1658 bannissant les Free-Indes, qui ne fut appliquée que dans quelques cas, la liberté religieuse prévalut dans la colonie. Vint ensuite l'établissement des pères pèlerins au Massachusetts. Se déclarant les adversaires irréductibles de la décadence romaine, et à ce titre, de l'appareil de l'épiscopat de l'Église anglicane, ils refusèrent l'introduction de la papauté et de l'épiscopat dans leur juridiction, ainsi que toute forme de religion, excepté le puritanisme, et dans leur zèle pour soutenir ces vues, ils furent conduits à de grands excès de persécution. Ces remarques relatives aux puritains du Massachusetts s'appliqueront à ceux du Connecticut, où le principe d'exclusivité fut également soutenu et appliqué. La colonie du Maryland, tout à l'opposé de la Nouvelle-Angleterre puritaine en matière de liberté religieuse, fut commencée en 1633 sous les auspices de Lord Baltimore, un papiste influent, mais, contrairement aux pratiques de sa propre Église, et contrairement à la Virginie épiscopale comme au père pèlerin, il accorda une liberté de conscience complète. Le résultat de sa politique libérale fut l'afflux de colons de toute nuance d'opinion religieuse. L'intolérance des pèlerins du Massachusetts donna naissance, en 1636, à l'établissement de Rhode Island. Les occupants de cette délicieuse localité étaient des hommes d'esprit éclairé. Ils avaient été persécutés et bannis pour leur religion, et manifestèrent leur condamnation de ces pratiques non chrétiennes en accordant, dans leur propre juridiction, une entière liberté religieuse. 30 ans plus tard, le même principe fut encore étendu dans le Nouveau Monde, avec l'établissement des Carolines. L'exemple suprême de liberté religieuse et de législation chrétienne éclairée en Amérique, et même dans le monde entier, se trouva toutefois dans l'établissement de la Pennsylvanie et des Jersey, sous la main directrice de William Penn. Nous voyons donc que, sauf le Massachusetts et le Connecticut, l'Amérique du Nord offrait un asile aux persécutés de toutes conditions et aux gens de tous climats. Nous ne pouvons donc nous étonner que son sol non sectaire soit devenu le refuge non seulement des Anglais, des Irlandais et des Écossais, mais aussi des migrants de presque toutes les nations d'Europe. En étudiant l'histoire de la société des Free-Indes, le lecteur attentif ne peut, pensons-nous, manquer de remarquer que ce n'est que dans les pays où l'obscurité de la papauté avait été largement dissipée que ces vues spirituelles et éclairées trouvèrent une acceptation durable. Bien que les premiers Quakers aient été engagés dans des travaux évangéliques dans plusieurs pays catholiques d'Europe, nous ne constatons pas qu'ils aient réussi à y établir une seule réunion, ni sauf en quelques cas, à obtenir la conversion d'un individu à leurs principes. Tandis qu'au contraire, dans presque toutes les nations protestantes où ils prêchèrent, des communautés se formèrent, professant et diffusant leur doctrine. La réforme fut donc un instrument pour préparer la voie à l'introduction du quakrisme dans la chrétienté. Mais affranchis, comme la plupart des colons du monde occidental l'étaient, des entraves de la papauté, et dans une large mesure aussi de l'épiscopat, et composés comme il était, d'un nombre considérable de personnes pieuses qui avaient été chassées de leurs pays respectifs pour la cause de la religion, les colonies d'Amérique offraient un champ particulièrement propre à recevoir ces vues élevées éclairées du christianisme que la société des Free-Indes était appelée à soutenir et à défendre parmi ses semblables. Il sera l'objet de nos pages futures de traiter des travaux de leurs messagers de l'Évangile et de la manière dont leurs principes furent accueillis dans le Nouveau Monde, chapitre I. L'essor de la société des Free-Indes, bref récit de George Fox à ce sujet Mary Fisher, et Anne Austin visite la Barbade et la Nouvelle-Angleterre, facsimilé d'une lettre de Mary Fisher à George Fox, préjugé des puritains contre les Free-Indes, Mary Fisher et Anne Austin arrivent à Boston, leurs malles sont fouillées à la recherche de livres Quaker, convocation d'un conseil spécial des magistrats de Boston, ils rendent un ordre d'emprisonnement et de bannissement des deux Free-Indes, leurs livres sont brûlés, elles sont fouillées comme des sorts. D'après les données les plus authentiques, l'essor de la société religieuse des Free-Indes eut lieu en 1644, année où quelques personnes pieusement disposées, résidant dans le Leicestershire, l'un des comtés des Midlands en Angleterre, s'associèrent pour la première fois, dans une profession religieuse, à George Fox. Pendant environ 7 années à partir de cette époque, la société ne s'étendit guère au-delà de quelques comtés voisins, dont le Yorkshire. Dans un bref récit que George Fox donne de la propagation de la vérité, il évoque ainsi les premiers progrès de la société. La vérité a d'abord germé parmi nous, de sorte que nous soyons un peuple pour le Seigneur, dans le Leicestershire en 1644, dans le Warwickshire en 1645, dans le Nottinghamshire en 1646, dans le Derbyshire en 1647, et dans les comtés adjacents en 1648, 1649 et 1650, dans le Yorkshire en 1651. L'année 1652 fut marquée par un accroissement très considérable de la société et de nombreuses personnes, qui devinrent d'éminents instruments dans la main du Seigneur pour l'avancement de sa sainte cause, se joignirent à la nouvelle association. À cette date, elle comptait 25 ministres par lesquels, remarque George Fox, des multitudes furent convaincues. Le ministère de ces ouvriers de l'Évangile, durant cette année et la suivante, fut principalement limité aux régions du Nord et des Midlands du Royaume, mais en 1654, nous trouvons des ministres Quakers parcourant presque tous les comtés d'Angleterre et du Pays de Galles, et des parties de l'Écosse et de l'Irlande, tandis que l'établissement de réunions avait eu lieu dans la plupart des régions de la nation. Il n'y avait pas moins de 60 personnes engagées dans l'œuvre du ministère, et leurs travaux furent suivis d'un succès remarquable. Une puissance de conviction les accompagnait dans ces engagements, qui imposaient de graves réflexions et promettaient un salut à expérimenter par la délivrance de la servitude du péché et la communion avec le Père et le Fils. Leur prédication ressemblait à celle des apôtres, dans la démonstration de l'Esprit et avec puissance, des multitudes accouraient pour les entendre et beaucoup embrassaient leur doctrine d'astérisque histoire de Gouvol, IP. 143. Astérisque voici un auteur profane affirmant que la prédication des Quakers ne ressemblait à aucune autre, depuis les apôtres, par la démonstration de puissance et d'esprit, chose manifestement évidente même aux yeux d'un auteur profane. Sous le commandement du Saint-Esprit, les premiers Quakers quittèrent maison, époux ou épouse, enfants et amis pour obéir à Dieu. Ils suivirent la conduite de l'Esprit pour la joie de servir Dieu et la joie de partager la vérité avec leurs semblables, eux aussi créés à l'image de Dieu. Ils disaient « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous ayez communion avec nous, et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Ils disaient « Oh, à quiconque a soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger, oui, acheter du vin et du lait sans argent et sans prix. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui n'est pas du pain, et votre travail pour ce qui ne rassasie pas ?» Il disait « Dieu est un Dieu proche, non lointain, non loin. » Il disait que Dieu devait être expérimenté dans cette vie, être vu, être entendu, être obéi, être suivi, et non seulement lu, discuté, sollicité par des requêtes ou chanté, tout cela dans l'esprit charnel, qui est inimitié contre Dieu. Il disait qu'on pouvait être délivré du péché, qu'on pouvait être transporté dans le royaume, qu'on pouvait entrer dans le repos pour avoir la paix, avec une confiance et une assurance éternelle. Il disait que toutes ces joies merveilleuses venaient par la croix du Christ, la croix intérieure du renoncement à soi, et que toute autre voie est sans salut, quoi qu'on ait pu vous dire. Il disait encore que si le culte n'était pas dirigé par l'Esprit, étant en esprit et en vérité, il était vain, y compris les sermons prêchés, le chant, la lecture des Écritures et la prière. Il disait que toute parole devait venir seulement de ce dont la langue était gouvernée par l'Esprit de Dieu, et que les prières des gens encore enfermés dans le péché étaient une abomination pour le Seigneur. Il témoignait encore contre tous les ministres qui percevaient la dîme ou un salaire, citant les commandements de Jésus et de Pierre, ainsi que la confirmation de Paul, ce qui, selon Paul, infectait déjà le christianisme de son vivant. La différence fondamentale dans le message des Quakers était que Dieu n'était pas éloigné dans un ciel lointain, mais proche, au-dedans du cœur de chaque homme, attendant patiemment d'être recherché, d'être écouté, d'enseigner chaque personne, et, par une telle foi, de conduire chacun à la pureté. Il disait que Jésus était la parole intérieure et la lumière au-dedans de tous les hommes, et que l'œuvre du salut ne commençait qu'après qu'une personne avait écouté et obéi à la voix du Seigneur en elle. Il disait que croire à l'exactitude de la Bible ne suffisait pas, qu'une foi suffisante pour obéir au commandement du Fils de Dieu au-dedans était nécessaire. Ces affirmations furent considérées comme une hérésie par les puritains, qui voyaient dans la Bible la source et la règle de la foi, bien que 1. La foi vienne de l'audition de la parole de Dieu, non de la lecture d'un livre, 2. Que Christ soit l'auteur et le consommateur de la foi, et 3. Que si la loi est notre pédagogue au commencement, les Écritures ne peuvent être notre règle permanente. Nous devons chercher à suivre, par la foi, Christ, notre règle et notre juge. Voir l'excellent écrit de James Parnell sur ce sujet. Les Quakers disaient que le salut devait être attesté, vu, entendu, ressenti, avec une certitude absolue. Sous la direction de Dieu, ils furent envoyés vers leurs semblables, vers lesquels ils allaient dans l'amour de leurs âmes. Ils parcoururent des contrées lointaines pour prêcher la bonne nouvelle de paix et de salut par Jésus-Christ et lui crucifié. Sous l'empire de ces impressions, nous trouvons qu'en 1655, quelques-uns avaient gagné le continent européen, tandis que Mary Fisher et Anne Austin, se sentant portés à visiter le monde occidental, se rendirent dans l'île de la Barbade, et de là, au printemps 1656, en Nouvelle-Angleterre. En 1655, dit George Fox, beaucoup passèrent au-delà des mers, où la vérité aussi jaillit, et en 1656, elle éclata en Amérique. Peu après l'arrivée de Mary Fisher et d'Anne Austin à la Barbade, la première adressa une lettre à George Fox. L'original existe encore, et nous en insérons l'extrait suivant. D'un intérêt historique à une date aussi ancienne, Mary Fisher à George Fox, mon cher père, comme père spirituel, dont le message l'a convaincu asterisque de la vérité, ne m'oubliez pas, mais que vos prières soient pour moi afin que je demeure fidèle jusqu'à la fin. Si quelques-uns de nos friends sont libres de venir par ici, ils pourraient être utiles, il y en a ici beaucoup de convaincus asterisques et beaucoup désirent connaître le chemin, ainsi je demeure. Mary Fisher de la Barbade, le 30 jour du mois appelé janvier 11e mois, A.S. 1655 astérisque être convaincu et signifie être devenu certain du chemin requis pour le salut, non recevoir le salut lui-même. Toutes ces personnes, nouvellement convaincues, étaient auparavant des lecteurs dévots de la Bible, professaient que Jésus était le Fils de Dieu, avaient été baptisées, assistaient aux offices des sectes, etc. Mais elles étaient toutes encore captives du péché, et savaient qu'il devait exister un moyen d'être délivrées même du désir de péché. Quand elles entendirent proclamer le chemin pour devenir pures, pour être délivrées du péché, leur cœur rendit témoignage à cette vérité. Elles se joignirent donc à d'autres cherchant à être affranchies du péché, en attendant en silence d'entendre le Maître intérieur pour lui obéir, et pour recevoir sa grâce transformatrice qui leur enseignait à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et comment vivre sobrement, justement, pieusement dans leur monde d'alors, être rachetées de toute iniquité et purifiées, et ensuite avoir un zèle pour les. Ce processus, de la conviction à la pureté, exigeait qu'elles continuent à travailler à leur salut au fil du temps avec crainte et tremblement, parce qu'elles tremblaient en présence de l'Esprit de Dieu agissant sur leur cœur, leur montrant leurs péchés, les convainquant des secrets de leur cœur, elles tremblaient ou quake, d'où leur nom de Quakers. On a observé, dans le chapitre précédent, qu'il existait dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre, et plus particulièrement dans l'État du Massachusetts, un esprit de grande intolérance et de persécution. Assurés de leur propre justice et de cette profession de religion qui avait soumis leurs ancêtres à tant de cruauté dans la mère patrie, et qui avait finalement poussé les pères pèlerins à chercher un refuge dans le désert américain, les puritains de la Nouvelle-Angleterre entretenaient malheureusement une disposition hostile à la liberté religieuse. Ils revendiquaient le droit de juger en matière spirituelle et rendaient témoignage contre l'épiscopat et tout ce qu'ils estimaient être l'erreur, mais ils tenaient toute divergence d'avec leur propre doctrine pour une hérésie. Très tôt après l'apparition des Friends en Grande-Bretagne, beaucoup d'entre eux durent endurer de grandes souffrances et oppressions tant de la part des prêtres que des gouvernants. L'épiscopat n'était alors plus la religion officielle de l'État. Les chaires étaient occupées par des presbytériens et des indépendants. Entre les pouvoirs civils et ecclésiastiques de la mère patrie et ceux de la Nouvelle-Angleterre, il y avait donc, à cette époque, une grande identité de sentiment et ce désir d'établir une uniformité religieuse, qui poussait les presbytériens à tenter d'installer un consistoire dans chaque paroisse à travers l'Angleterre, trouva un large écho dans le cœur des dirigeants bigots du Massachusetts. Les principes de la société des Friends, s'attaquant comme ils le font à la base même des systèmes hiérarchiques et à toute distinction entre laïcs et clergés, rencontrèrent une opposition véhémente de presque toutes les classes de professants de la religion, et royalistes comme parlementaires s'unirent pour les opprimer. En les opprimant, en les emprisonnant, en les amendant, en les fouettant, etc., ils prouvaient qu'ils n'étaient pas des disciples du Christ, car le Christ a dit « Aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, et tendez l'autre joue ». Les baptistes, les épiscopaliens, les presbytériens et les congrégationalistes puritains ignorèrent la réponse du Christ à ses disciples lorsqu'ils voulaient punir ceux qui ne l'écoutaient pas, les réprimandant sévèrement « Vous ne savez de quel esprit vous êtes ». Si quelqu'un viole les règles de l'Église en péchant, il doit être averti par un, puis averti par deux ou trois, puis censuré par tout le corps des croyants, et s'il ne se rebe pas de son erreur, il doit être expulsé et évité, non tué, emprisonné, torturé ou dépouillé de ses biens. Ainsi les protestants, à l'instar de leur ancêtre catholique romain, montrèrent clairement qu'il était la fausse Église, comme il est parlé dans l'Apocalypse de la prostituée de Babylone, dont toutes les nations ont bu le vin de la fureur de sa fornication, parce que toutes les sectes ne sont que des variétés évolutives de l'Église de l'Empire romain, tant elle qu'à l'Ouest, dont les doctrines furent dictées par les empereurs sanctifiés Constantin et Justinien le despote, éliminant ainsi le véritable évangile vers l'an 390. Comme prophétisé dans l'Apocalypse, l'Église adultérée avec les rois de la terre. Ce défaut n'est guère surprenant, quand on considère que les disciples et apôtres du Christ Jean, Pierre, Paul et Jude écrivaient déjà au sujet de faux enseignants et de faux prédicateurs en leur temps, il y a 2000 ans. Même du vivant de Jean, lorsqu'il écrivait l'Apocalypse, le Seigneur parlait d'erreurs fatales dans 6 des 7 églises auxquelles il s'adressait. Comparez les actes des Quakers, ils priaient pour leurs ennemis, ils pardonnaient à leurs ennemis, ils refusaient de poursuivre leurs ennemis, quand la loi était rarement de leur côté, disant que la vengeance appartenait à Dieu, non à eux. Comme le Christ, ils ne se défendaient pas. Comme le Christ, ils allaient comme des brebis à l'abattoir. Comme le Christ, ils allaient à la mort sans colère, sans menace, ni supplication de miséricorde. Dans l'Apocalypse, il la bête lui fut encore permis de faire la guerre aux saints, le peuple saint de Dieu et de les vaincre. Et pouvoir lui fut donné d'étendre son autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. La bête du livre de l'Apocalypse est la bête de l'autorité religieuse païenne, dont le pouvoir fut sévèrement réduit une blessure à la tête par le christianisme primitif, particulièrement dans la région méditerranéenne. Mais une seconde bête surgit bientôt, qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau, mais c'était une bête. Notez, cette bête paraît chrétienne et sous prétexte de l'autorité de l'agneau, tout en agissant par la puissance du dragon, dérivée de la première bête de la religion païenne, contraint les hommes à se conformer à de telles traditions, cérémonies et rituels, présentés comme des devoirs chrétiens qu'ils ressemblent aux usages des païens dans leur culte idolâtre et leur superstition. Toute la terre suivit cette bête et la suit encore. Ainsi s'éleva la fausse église, et personne ne pouvait spirituellement acheter ou vendre, comme les vierges folles allant chercher de l'huile pour leurs lampes, s'ils ne se conformaient pas à la bête et n'avaient pas reçu la marque de la fausse église. Ceux qui niaient cette fausse église, ou qui tentaient d'acheter ou de vendre des œuvres spirituelles par l'esprit ou par la main sans la sanction de la fausse église, furent martyrisés, comme leurs prédécesseurs l'avaient été auparavant sous la puissance païenne ou première bête. Et tandis que cette fausse église est souvent identifiée par les protestants à l'église romaine, les protestants font tous partie de la même fausse prostituée, la bête a de nombreux noms, un salut fondé sur le fait de prononcer certains mots, l'eau, le pain et le vin, autant de rituels superstitieux, au lieu d'un changement complet du cœur, circoncis pour devenir un cœur et un esprit nouveau. Et la prostituée était ivre du sang des saints, inquisition et massacre de l'Église romaine à travers l'Europe, où durant le Moyen Âge 800 à 1500, 9 millions d'âmes furent mises à mort, accusées de sorcellerie. Cela fut suivi par les protestants d'Angleterre et d'Amérique qui, en 50 ans, furent responsables de la mort de plus de 869 Quakers au XVIII siècle. Les persécuteurs des Quakers comprenaient épiscopaliens, presbytériens, puritains, congrégationalistes et baptistes. Elles se vantent de n'être pas veuves et de ne jamais voir le deuil. Elles se vantent que Christ est son époux. Mais ces fausses églises sont la prostituée de Babylone, qui ignore les commandements du Christ à se repentir, ses enseignements, ses exigences, ses avertissements, sa sainteté requise, son évangile, son royaume, sa liberté promise du péché et sa croix du renoncement à soi, la croix manquante menant à la pureté. Si vous voulez lire davantage sur la prostituée et la bête, Isaac Pennington a des écrits sur ce site, 1. Babylone la Grande et 2. La Grande Apostasie, ainsi que l'histoire de l'Église de Janet. Leurs ennemis, non contents de persécuter ce peuple méprisé pour des sentiments qu'ils tenaient réellement et prêchaient, s'efforcèrent, par une énorme somme de dénigrement, de susciter un préjugé contre eux dans l'esprit de ceux qui n'avaient pas l'occasion de juger par eux-mêmes. Les livres déformés astérisques qui circulaient avec zèle à leur sujet avaient, très tôt dans leur histoire, atteint les établissements les plus éloignés de l'Empire britannique, et, en ce qui concerne les colons d'Amérique, ils avaient produit chez eux non seulement un préjugé établi contre les Friandes, mais aussi une aversion profondément enracinée pour les vues spirituelles qu'ils défendaient. La manière dont ce sentiment se manifesta dans la Nouvelle-Angleterre puritaine sera montrée dans les pages suivantes, astérisque comme « Quakers hérétiques séduits par le diable, dans A Mirror or Looking Glass de Samuel Clarke, 1656, ouvrage réfuté intégralement par George Fox. Il suffit aux disciples d'être comme son maître, et aux serviteurs d'être comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, combien plus appelleront-ils ainsi ceux de sa maison ? Matt 10, 25, c'est au commencement du cinquième mois, 1656, que Mary Fisher et Anne Austin arrivèrent à Boston, et leur approche semble avoir causé un degré non négligeable de consternation aux autorités de la baie du Massachusetts. La nouvelle de l'arrivée des deux étrangères n'eut pas plus tôt atteint les oreilles de Bellingham, le lieutenant-gouverneur, le gouverneur lui-même étant absent, que dans son zèle pour prévenir l'introduction redoutée de doctrines hérétiques dans la colonie, il ordonna immédiatement que les deux Friandes fussent retenues à bord du navire dans lequel elles étaient venues, et que leurs malles fussent fouillées à la recherche d'ouvrages imprimés qu'elles auraient pu apporter. Ces ordres furent strictement exécutés, elles furent maintenues étroitement confinées dans le bâtiment, et environ 100 livres leur furent retirés et confiés à la garde des officiers. À cette occasion extraordinaire, comme l'historien Neil l'appelle, les magistrats de Boston prirent l'alarme, et comme si la ville avait été menacée d'un danger imminent par l'arrivée de deux femmes anglaises paisibles et inoffensives. Un conseil spécial fut convoqué, dont les délibérations aboutirent à la publication de l'ordre suivant. Lors d'un conseil tenu à Boston, le 11 juillet 1655, attendu qu'il existe plusieurs lois, faites et publiées depuis longtemps dans cette juridiction, portant témoignage contre les hérétiques et les personnes erronées, et que nonobstant Simon Kempton de Charleston, maître du navire Swallow de Boston, a introduit dans cette juridiction, depuis l'île de la Barbade, deux femmes qui se nomment Anne, épouse d'un certain Austin, et Mary Fisher, appartenant à cette sorte de gens communément connus sous le nom de Quakers, lesquelles, après examen, sont reconnues non seulement comme transgresses. Le Conseil donc, ayant à cœur la conservation de la paix et de la vérité, jouis et professée parmi les églises du Christ en ce pays, ordonne par les présentes, premièrement, que tous ces livres corrompus, qui seront trouvés lors de la perquisition avoir été introduits et répandus par les dites personnes, soient sur le champ brûlés et détruits par le bourreau public, deuxièmement. Que les dites Anne et Mary soient gardées en prison étroite, et que nul ne soit admis à communiquer avec elles sans permission du gouverneur, du lieutenant-gouverneur ou de deux magistrats, afin d'empêcher la propagation de leurs opinions corrompues, jusqu'à ce qu'elles soient remises à bord d'un bâtiment, pour être transportées hors du pays, troisièmement. Le dit Simon Kempson est par les présentes enjoint, promptement et directement, de transporter ou de faire transporter les dites personnes d'ici à la Barbade, d'où elles sont venues en acquittant tous les frais de leur emprisonnement. Et pour l'exécution effective de ceci, il doit fournir une garantie par un engagement de livres sans sterling, et en cas de refus de donner la dite garantie, il sera incarcéré jusqu'à ce qu'il s'en acquitte. Dans les procédures extraordinaires du Conseil de Boston lors de l'adoption de cet ordre, nous voyons le premier acte délibéré des dirigeants de la Nouvelle-Angleterre, en tant que corps constitué, à l'égard des Free Indes. Les instructions ainsi émises furent non seulement rigoureusement, mais même barbarement appliquées. Mary Fisher et Anne Austin furent débarquées et enfermées dans la lugubre prison de Boston, tandis que leurs livres étaient livrés aux flammes par la main du bourreau. Oh, cruauté savante et malveillante! Remarque quelqu'un qui fut bientôt après prisonnier à Boston pour ses principes Quakers, comme si un autre homme n'eût pas suffi pour brûler quelques livres inoffensifs, lesquels, comme leur maître, ne peuvent ni se battre, ni frapper, ni crêler. Les autorités, déterminées à empêcher que les doctrines hérétiques ne se répandent parmi les colons, menacèrent d'infliger une amende de 5 livres astérisques à quiconque tenterait seulement de converser avec les Free Indes par la fenêtre de leur prison. Par la suite, elles la firent clouer comme sécurité supplémentaire et ne jugeant pas ces précautions suffisantes, elles privèrent ensuite les prisonnières de leurs instruments d'écriture. Astérisque, il y avait 240 pence pour une livre, et un penny pouvait acheter un pain. Aujourd'hui, un pain coûte au moins 1 dollar, donc la livre 1 2650 équivaut à environ 900 dollars, l'amende de 5 livres équivaut à environ 4500 dollars aujourd'hui. L'ordre du conseil était sévère, mais le traitement révoltant auquel ces femmes inoffensives furent ensuite exposées fut une atteinte encore plus grande à l'humanité. Depuis quelques années auparavant, une illusion des plus extraordinaires et alarmantes, relative au sujet des sorcières, s'était malheureusement emparé de l'esprit des colons de la Nouvelle-Angleterre, et plusieurs personnes avaient déjà été mises à mort sous l'accusation de sorcellerie. Deux avaient été exécutées à Boston, l'une en 1648, et une autre, la belle-sœur de Bellingham lui-même, quelques mois seulement avant l'arrivée des deux étrangères. Que les persécuteurs de Mary Fisher et d'Anne Austin aient réellement projeté la mort des victimes de leur bigoterie, et pour l'accomplir, ait cherché à éviter de heurter les sentiments de la communauté, nous ne le savons pas, mais le cri de sorcellerie fut maintenant élevé contre elles. Elles furent donc soumises à un examen approfondi, mais aucun acte manifeste pouvant étayer l'accusation malveillante ne put être produit. Les autorités, ainsi déjouées dans leur dessein impie, les soumirent ensuite à un examen indécent et cruel de leur personne, pour voir si quelques marques de sorcellerie ne se trouvaient pas sur elles, selon la superstition populaire, qui voulait qu'un signe distinctif fût découvert sur le corps de ceux qui s'étaient ainsi vendus à Satan. Cela aurait été une chose effrayante si quelques marques ou grains de beauté d'une sorte particulière avaient été visibles, mais rien de tel ne fut trouvé, et elles échappèrent ainsi à une mort infamante. Les magistrats, contrariés dans leurs desseins mauvais, refusèrent alors de fournir des vivres à leurs prisonnières, ou même de permettre aux citoyens de Boston de le faire, mais celui qui nourrit et lit dans le désert, et qui prend soin de ses saints en toute variété de circonstances, était proche pour aider. Un habitant âgé de la ville, touché de compassion pour leurs souffrances, soudoya le geôlier, en lui donnant 5 shillings par semaine, afin de lui permettre de subvenir secrètement à leurs besoins. Après un emprisonnement de près de 5 semaines, et la perte de leur lit et de leur Bible, que le geôlier prit pour ses frais, Mary Fisher et Anne Austin furent renvoyées à bord du navire par lequel elles étaient venues, et qui allait maintenant appareiller pour la Barbade, le capitaine étant tenu, sous peine de 100 livres, de les transporter dans cette île, et de les empêcher soit de débarquer en Nouvelle-Angleterre, soit, de quelque manière que ce fût, de communiquer avec ses habitants. La date de leur bannissement de Boston fut le 5 du 6e mois, 1656. Kempthorne, le capitaine, se soumit à l'exigence arbitraire du Conseil, et l'on suppose qu'il paya le passage de retour des deux amis à la Barbade. Tandis que ces démarches se poursuivaient, Endicott, le gouverneur, se trouvait dans une autre partie de la colonie, et c'est à son absence de Boston que l'on peut attribuer la fuite de Mary Fisher et de sa compagne, d'une cruauté d'une autre espèce. « Si j'avais été présent, dit ce puritain persécuteur, en apprenant le traitement qui leur avait été infligé, je les aurais fait bien fouetter. » C'était cet Endicott qui, plus tard, se rendit si tristement célèbre dans les persécutions de la Nouvelle-Angleterre. La lettre inédite suivante, tirée de la collection Swarthmore de manuscrits, écrite par Henry Fell, qui visita la Barbade vers cette époque, contient un récit de l'arrivée des amis bannis dans cette île, et sera probablement lu avec intérêt. Henry Fell à Margaret Fell Barbade, le 3 au jour du 9e mois, 1656, ma très chère bien-aimée, en notre Seigneur Jésus-Christ, ma chère affection te salue. Je débarquai ici à la Barbade, le 7 au jour du 8e mois, dans l'après-midi, et cette nuit-là j'allai dans la campagne, à 6 000 de là, chez une amie d'une veuve, où je fus reçue avec joie. Elle me dit que Peter Head, John Ruse et Mary Fisher étaient partis de l'île la veille à ce qu'elle savait, mais il s'avéra qu'il n'en était rien car le lendemain matin je me rendis à Indian Bridge, où ils devaient s'embarquer pour les îles sous le vent, à savoir Nevis et Antigua, à environ 80 ou 90 lieues de là, mais je les trouvais encore sur place, car le navire qui devait les transporter les avait trompés. Et vraiment, j'en fus fort réconforté et affermi. Ils restèrent ici environ 14 jours après mon arrivée, avant de trouver un navire pour partir d'ici. Durant ce temps, nous eûmes plusieurs réunions entre amis, puis ils s'en allèrent. Je ne sais rien de leur retour ici, car ils pouvaient en dire peu, ni de la manière dont ils devaient être disposés. Mary Fisher et une certaine Anne Austin, récemment venues d'Angleterre, étaient déjà venues ici auparavant, et étaient parties d'ici pour la Nouvelle-Angleterre, où on les mit en prison, et où elles furent traitées avec une grande cruauté et fouillées comme des sorcières. On leur prit leurs livres et on les brûla, et personne ne fut autorisé à venir leur parler pendant leur détention, car une amende de 5 livres était imposée à quiconque viendrait les voir en prison ou cacherait l'un de leurs livres. Toutefois, un homme vint à la prison et proposa de payer l'amende afin de pouvoir leur parler, mais on ne les laissa pas entrer. Ensuite, elles furent renvoyées à bord et on ne leur permit aucune liberté à terre, et elles furent ainsi ramenées à la Barbade, d'où elles étaient venues, sur ordre du gouverneur de la Nouvelle-Angleterre. En vérité, Mary Fisher est un cœur précieux, et elle a été très utile ici. De même John Roux et Peter Head, et le Seigneur a béni leurs travaux car les fruits en paraissent. Ici, beaucoup de gens sont convaincus de la vérité, parmi lesquels le Seigneur place son nom, et ils se réunissent en silence en 3 lieux distincts de l'île, et le Seigneur en ajoute encore ceux qui seront sauvés. Astérisque Henry Fell astérisque l'expression « seront sauvés » mérite examen. Dans les Actes, l'Église primitive est décrite à Jérusalem, et tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et en distribuaient le produit à tous, selon les besoins de chacun. Et ils persévéraient chaque jour, d'un commun accord, dans le temple, et rompant le pain de maison en maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était en train d'être sauvé. Acte 2, 44-47. Cela montre clairement qu'être sauvé ne se fait pas instantanément du fait de croire, d'être baptisé et de rejoindre l'Église, non, ils sont décrits comme étant sauvés, comme dans l'avenir, à la mort de leur esprit égoïste sur la croix. Une autre preuve que le salut n'est pas instantané, mais un processus, il est nécessaire de porter sa croix intérieure de renoncement à soi pour être sauvé, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes en train d'être sauvés, la croix est la puissance de Dieu. 1 Cor 1:18, comme il sera intéressant d'en apprendre davantage sur l'histoire de Mary Fisher et d'Anne Austin, les premières à avoir débarqué sur le continent américain pour y promulguer les doctrines de la Société des Amis, le présent chapitre s'achèvera par un bref aperçu de leur vie, dans la mesure où les sources historiques le permettent. Mary Fisher naquit dans le nord de l'Angleterre vers l'année 1623, et à une période très précoce des progrès de la société dans cette région, elle s'y joignit par profession, mais nous n'avons aucune trace de la date précise ni des circonstances de sa conviction. Elle possédait des talents bien au-dessus de la moyenne de son sexe, et dont les facultés intellectuelles, observe un auteur ancien, était grandement ornée par la gravité de son maintien. On pense que sa résidence, au moment de sa conviction, était à Pontefract, dans le Yorkshire. Elle se manifesta comme ministre de l'Évangile en 1652, et la même année, nous la trouvons emprisonnée au château de York, pour avoir adressé la parole à une assemblée à l'issue du culte public à Selby, emprisonnement qui dura 16 mois. Presque immédiatement, après sa libération de ce long confinement, elle entreprit une mission évangélique dans le sud-est de l'Angleterre, en compagnie d'Elizabeth Williams, compagne de labeur dans le ministère. Deux femmes voyageant ainsi de comté en comté, prêchant publiquement les doctrines de la nouvelle société dans des régions où l'on connaissait à peine son nom jusque-là, durent susciter une grande surprise parmi les populations qu'elles rencontraient. Elles traversèrent toutefois le pays sans être inquiétées jusqu'au dixième mois 1653, lorsqu'elles arrivèrent à Cambridge. Aux étudiants de ce siège du savoir, la présence de prédicateurs itinérants parut une absurdité, mais que des femmes quakers tentent de prêcher à Cambridge était, à leurs yeux, une présomption plus grande encore. Mary Fisher et son amie, fidèles à leur appel, discutèrent des choses de Dieu avec les jeunes étudiants et prêchèrent à la porte du collège de Sydney aux pensionnaires de cet établissement. Mais la doctrine de la liberté du ministère évangélique et l'abandon de toutes les observances cérémonielles en religion parurent aux collégiens lettrés un pur jargon, et ils commencèrent à se moquer et à railler les deux étrangères en les traitant de fanatiques religieux astérisques, tandis que le maire de la ville, empressé de soutenir l'orthodoxie de son église, ordonna qu'on les conduit à la croix du marché et qu'on les fouette jusqu'à ce que le sang coule le long de leur corps, sentence qui fut exécutée avec une grande barbarie. Avant qu'elles ne fussent attachées au poteau du fouet, en présence de la multitude curieuse, ces femmes innocentes, au pied du trône de la miséricorde divine, demandèrent pardon pour leurs persécuteurs. La scène était entièrement nouvelle et étrange pour les spectateurs, et ils furent étonnés de voir la patience et la constance chrétienne qui caractérisaient la conduite des victimes, et plus encore lorsqu'ils les entendirent prier pour que leurs persécuteurs soient pardonnés. Astérisque voyez, les cruautés brutales que les étudiants en théologie d'Oxford et de Cambridge infligèrent aux premiers Quakers, notamment la mort d'une jeune femme Quaker, ministre. Le premier Quaker emprisonné fut George Fox à Nottingham en 1649. Il avait aussi, avec plusieurs autres de ses compagnons de foi, subi de nombreuses injures personnelles, mais ce ne fut qu'à la visite de Mary Fisher et de sa compagne à Cambridge que l'on fouetta publiquement des personnes. En cette occasion, Mary Fisher, sous le pressentiment des troubles qui attendaient les amis, fut entendue dire « Ce n'est que le commencement des souffrances du peuple de Dieu ». Vers la fin de 1653, elle se sentit appelée à déclarer la vérité dans la maison au clocher à Pontefract, acte de dévouement pour lequel elle fut murée 6 mois entre les murs du château de York. L'année suivante, elle fut soumise, par le maire de Pontefract, à 3 mois de détention supplémentaire dans cette forteresse, parce qu'elle était impénitente d'avoir adressé la parole à l'Assemblée à Pontefract et pour avoir refusé de fournir caution pour sa bonne conduite. En 1655, nous la trouvons voyageant dans le ministère dans le Buckinghamshire, où elle redevint pendant quelques mois l'hôte d'une prison, pour avoir adressé des exhortations chrétiennes aux prêtres et au peuple. C'est aussi durant 1655 que Mary Fisher ressentit un appel religieux à quitter les rivages de son pays natal pour les îles des Indes occidentales et l'Amérique du Nord. La date de son retour du monde occidental fut probablement au début de 1657. La même année, elle visita de nouveau les Antilles. En 1658, nous la retrouvons à Nevis. En 1660, sous l'impression d'un devoir religieux de visiter le sultan Mahomet Ive, elle entreprit un long et pénible voyage vers le continent asiatique. Après avoir visité l'Italie, Zante, Corinth et Smyrne, elle atteignit enfin Andrinople, où le sultan était campé avec son armée. Son message fut reçu par ce grand monarque asiatique astérisque avec beaucoup de courtoisie. En quittant la cour de ce potentat mahométan, elle se rendit à Constantinople, d'où elle partit pour l'Angleterre. Astérisque vers l'année 1660, Mary Fisher sentit qu'il lui était demandé d'effectuer une visite religieuse au sultan de Turquie, Mahomet Ive, alors au fait de sa puissance, bien qu'il n'eût que 18 ans. Cette jeune femme ardente arriva en temps voulu à Smyrne, et le consul d'Angleterre sur place, apprenant son dessein, l'exhorta par tous les moyens à y renoncer. Lorsqu'il la vit résolue malgré ses avertissements, il la fit embarquer à bord d'un navire à destination de Venise, avec l'ordre de l'y conduire. Mais Mary Fisher ne se laissa pas si facilement détourner de ce qu'elle croyait lui être demandé. Elle obtint du capitaine qu'il la dépose en Grèce, et portant le message de Dieu dans son cœur, sa vie dans sa main, seule, ne connaissant ni la route ni la langue, elle voyagea à pied le long de la côte grecque, à travers la Macédoine et par-dessus les montagnes de Thrace, un trajet de plus de 600 milles, jusqu'à ce qu'elle atteignît enfin Andrinople, où le sultan campait avec une grande armée. Même alors, tout n'était pas accompli. Comment une chrétienne abhorrée pouvait-elle obtenir accès au monarque mahométan, parfois appelé l'ombre de Dieu? La foi inébranlable de Mary Fichet ne sembla jamais vaciller, et elle finit par trouver quelqu'un d'assez hardi pour parler d'elle au grand vizir. Par lui, le sultan fut informé qu'une femme anglaise était venue avec un message pour lui déclarer, de la part du grand Dieu, on lui dit qu'elle pourrait avoir une entrevue avec lui le lendemain matin. Le jour suivant, à l'heure fixée, elle se présenta devant le sultan, entourée de ses principaux officiers. Mahomet lui demanda si c'était vrai qu'elle avait un message du Seigneur, elle répondit que oui, et il lui dit alors « parlez ». Lorsqu'elle s'arrêta quelques instants dans un recueillement silencieux, il lui demanda si elle souhaitait que certains des présents se retirent. Elle répondit qu'elle ne le désirait pas, il lui dit alors de prononcer « la parole du Seigneur sans crainte, puisqu'ils avaient de bon cœur pour l'entendre », mais il la mit en garde de ne dire « ni plus ni moins que la parole qu'elle avait du Seigneur, puisqu'ils étaient disposés à l'entendre, quoi qu'elle fût ». Ils écoutèrent gravement son ministère ferve, et lorsqu'elle eut terminé, le sultan lui demanda si elle avait quelque chose de plus à dire. Quand elle lui demanda s'il l'avait comprise, il répondit « oui, chaque parole, et c'est la vérité ». Il lui demanda ensuite de rester dans ses états, et lorsqu'elle refusa, il lui offrit une escorte jusqu'à Constantinople, disant qu'il serait grandement affligé si quelque mal lui arrivait dans son empire. Elle refusa poliment cette aimable offre et, ne se confiant qu'au Seigneur, atteignit Constantinople sans la moindre atteinte ni moquerie, puis arriva enfin saine et sauve en Angleterre. Le traitement reçu de la part du Turc méprisé contraste fortement avec celui rencontré dans la nouvelle Angleterre chrétienne. Peu après le retour de Mary Fichet de l'Orient, elle s'unit par le mariage à William Bailey, de Poole, dans le Dorset, ministre éminent de la société. Le mariage eut lieu au début de 1662. William Bailey était marin de profession et faisait occasionnellement des voyages aux Antilles, mais il mourut en mer au quatrième mois, 1675. Nous n'avons aucune trace de la descendance de ce mariage, nous trouvons toutefois que Sophia Hume, amie ministérielle d'un caractère extraordinaire, était la petite-fille de William et Mary Bailey. Au septième mois 1678, Mary Bailey s'unit par le mariage à John Cross de Londres. On ne sait combien de temps John Cross et son épouse résidèrent à Londres après leur union, mais, suivant l'exemple de bien d'autres amis de l'époque, ils émigrèrent en Amérique. En 1697, nous trouvons Mary, veuve pour la seconde fois, résidant à Charleston, en Caroline du Sud. Robert Barrow, après son providentiel sauvetage d'un naufrage sur la côte de Floride, tandis qu'il voyageait dans le ministère, fut conduit par les Espagnols de Saint-Augustine à Charleston, où il devint son hôte bienvenu. Écrivant à sa femme depuis ce lieu, après avoir mentionné la grave maladie qu'il avait endurée du fait de ses privations, il parle ainsi de son aimable hôtesse. « Enfin nous arrivâmes à Ashley River, et il plut à Dieu que j'eusse la grande fortune d'avoir une bonne infirmière, dont tu as entendu le nom, une femme du Yorkshire, née à moins de 2 milles de York. Son nom de jeune fille était Mary Fichet, celle qui parla au grand Turc, ensuite l'épouse de William Bailey. Elle est maintenant ma logeuse et mon infirmière. Elle est veuve d'un second mari, son nom est à présent Mary Cross. » À la date de la lettre de Robert Barrow, l'âge de Mary Cross ne pouvait guère être inférieur à 70 ans. Depuis qu'elle avait quitté les rivages de la Grande-Bretagne pour la Nouvelle-Angleterre, 41 années s'étaient écoulées. Elle acheva sans doute sa course terrestre à Charleston, mais nous regrettons de n'avoir pu auparavant trouver aucun détail sur la fin de sa vie si riche en événements, ni sur la date à laquelle elle se produisit. Nous pouvons toutefois croire avec respect qu'elle n'était pas mal préparée à l'appel solennel, et qu'elle est entrée dans ce repos, et jouit de cette couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, donne à tous ceux qui aiment son apparition. Concernant Anne Austin, nous n'avons que peu de faits à rapporter. Au moment de sa visite en Nouvelle-Angleterre, elle est mentionnée comme étant avancée en âge, et comme mère de 5 enfants. Il semble que sa résidence était dans la ville de Londres. Expulsée de Boston, elle fut emmenée avec sa compagne Mary Fichet à la Barbade. Son séjour dans cette île ne fut pas de longue durée, puisque nous trouvons les frais de son passage de retour vers l'Angleterre inclus dans les comptes de la société pour 1656-7. Demeurant fidèle à sa haute vocation de ministre du Christ, Anne Austin, à son retour dans sa patrie, dut subir les mains persécutrices d'hommes impies, et ainsi, l'une des prisons insalubres de Londres, en 1659, devint sa demeure pour avoir exercé son don dans les assemblées de sa propre société. Depuis son emprisonnement à cette date jusqu'à celui de son décès, aucun incident n'est consigné au sujet de cette femme consacrée. Sa mort survint durant l'effroyable visitation de 1665, par laquelle 100 000 habitants de Londres furent appelés du temps à l'éternité. Le registre des sépultures de la société indique qu'elle mourut au sixième mois 1665 de la peste et qu'elle fut enterrée au cimetière de Bunhill, et nous ne doutons pas qu'elle ait été appelée à recevoir cette récompense, qui est le sûr héritage de tous les fidèles en Christ. Chapitre I. Huit ministres de la société arrivent à Boston depuis Londres, leurs malles sont fouillées, ils sont jetés en prison et condamnés au bannissement. Le capitaine qui les a amenés est tenu de les ramener en Angleterre, les magistrats prennent des mesures pour légaliser leur procédé persécuteur. Une loi est promulguée pour bannir les Quakers de la colonie de Boston. Nichol Harpshul témoigne contre la loi. Il est arrêté, condamné à une amende, emprisonné et banni. Il cherche refuge dans la colonie de Plymouth et y passe l'hiver. Dans l'expulsion des premiers Quakers de la Nouvelle-Angleterre, les dirigeants de Boston avaient manifestement beaucoup sous-estimé la tâche qu'ils s'étaient, à leur malheur, imposée. Et il eût été heureux pour leur pays que leurs actes eussent répondu au conseil donné par Gamaliel, au sujet de la prédication des apôtres à Jérusalem, lorsque les Juifs cherchaient à les faire mourir. Éloignez-vous de ces hommes et laissez-les, car si ce dessein ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la renverser. À peine le navire, qui portait les deux messagères de l'Évangile loin des rivages du Massachusetts, avait-il dirigé sa route vers la mer des Caraïbes, qu'un autre bâtiment venu de Londres, ayant à son bord huit autres Quakers, arriva dans la baie de Boston. Il s'agissait de Christopher Hold, John Copeland, Thomas Thurston, William Brand, Mary Prince, Sarah Gibbon, Mary Weatherhead et Dorothy Waugh. La date de leur arrivée fut le 7 du sixième mois, 1656, soit seulement deux jours après le départ de Mary Fisher et d'Anne Austin. Ils avaient été amenés ici, dirent-ils, dans la volonté de Dieu, ayant été rendus sensibles aux cris et aux gémissements de sa semence, qui criait vers lui pour obtenir aide et délivrance sous une cruelle servitude. Astérisque, astérisque dans une lettre de John Audeland à Margaret Fell, écrite en 1655 depuis Bristol, nous trouvons la référence suivante. Plusieurs sont suscités et poussés à voyager vers diverses contrées. D'ici, il y en a qui sont poussés à aller en Nouvelle-Angleterre, deux hommes et deux femmes. Certains sont allés en France et d'autres en Hollande. La circonstance est aussi ainsi évoquée dans une lettre de Francis Haugill, écrite quelques mois plus tard. Quatre de Londres et quatre de Bristol sont partis vers la Nouvelle-Angleterre, de bon cœur, la bénédiction du Seigneur est avec eux, et sa crainte marche devant eux. Le maître du navire, presque immédiatement après son arrivée, fournit au gouverneur une liste de ses passagers, et lorsqu'il fut connu que huit d'entre eux étaient des Quakers d'Angleterre, avec Richard Smith, un habitant de Long Island, qui professait avec eux, des officiers furent aussitôt envoyés à bord avec un mandat leur ordonnant de fouiller les boîtes, coffres et malles des Quakers, à la recherche de livres erronés et de pamphlets infernaux, et aussi d'amener les amis devant la cour alors siégeant à Boston. Les ordres ayant été promptement exécutés, les amis furent soumis à un long et futile interrogatoire, portant principalement sur leur croyance quant à la nature de l'être divin et au sujet des Écritures. À propos de ces dernières, l'un des prêtres soutint, sur l'autorité du passage de 2 Pierre 1:19, qui fait allusion à la parole prophétique plus certaine, astérisque que les Écritures étaient la seule règle et le seul guide de vie. Voir l'excellent écrit de James Pornell sur ce point précis. Le prêtre, durant la discussion, trouvant difficile de maintenir sa position, commença à concéder davantage que ce qui était conforme aux vues de certains magistrats, ce qui provoqua parmi eux de vives dissensions, au grand effroi et à la consternation du prêtre. Aussi long qu'eût été l'interrogatoire, la cour voulut néanmoins le reprendre le lendemain. Les amis furent donc jetés en prison pour la nuit, puis ramenés le lendemain matin. Les sujets sur lesquels on interrogea alors les prisonniers étaient ceux qui avaient été discutés la veille. Ils refusèrent d'y répondre, sinon en renvoyant les magistrats à leurs réponses précédentes, déjà soigneusement consignées. Ils demandèrent ensuite de savoir pourquoi ils avaient été arrêtés et privés de leur liberté. Endicott, qui était revenu de la campagne, éludant une réponse à la question, répliqua « Prenez garde de ne pas enfreindre nos lois ecclésiastiques, car alors vous êtes sûr de finir au bout d'une corde la corde du bourreau ». Notez qu'il menaçait déjà de mort, ne manquant que d'un précédent légal pour le justifier. Astérisque, avant de pouvoir voir Christ dans la lumière, vous devez écouter et obéir à la parole de Dieu, dite pour vous par la bouche de Dieu. Comme Pierre l'a si bien exprimé, aussi de même que nous avons entendu la voix de Dieu du ciel sur la montagne, nous avons la parole prophétique stable, la parole dans votre cœur, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à poindre et que l'étoile du matin Jésus se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1:19 Vous pouvez lire la Bible sans cesse, et vous ne verrez jamais l'étoile du matin se lever dans vos cœurs, mais si chaque jour, vous écoutez la part. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner, mais, comme cette même onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est vérité et qu'elle n'est point mensonge, et comme elle vous a enseigné, demeurez en lui. 1 Jean 2, 27 La parole vivante, et la lumière, et l'esprit de vérité, et le Saint-Esprit, et la grâce sont tous de Christ notre seul Maître. Mais devenir entièrement rempli de lumière, devenir un fils de lumière, devenir une lumière, en union totale avec Christ la lumière, c'est l'étape ultime du salut. À l'issue de l'interrogatoire, une sentence de bannissement fut prononcée contre les prisonniers. Des instructions furent données pour maintenir les 8 amis anglais en stricte détention jusqu'à ce que le navire par lequel ils étaient venus fût prêt à repartir. Richard Smith, le Quaker de Long Island, devait être renvoyé chez lui par mer, plutôt que par la voie terrestre, plus courte et plus commode. Ses dirigeants Bigot jugèrent nécessaire d'employer toutes les précautions pour empêcher les « hérétiques Quakers » de traverser ne fût-ce que leur pays. Les autorités, après avoir agi avec tant de célérité contre les amis, firent ensuite venir le maître du navire dans lequel ils étaient arrivés, afin de le contraindre à fournir une caution de 500, garantissant qu'il les transporterait en Angleterre à ses propres frais. L'honnête marin, estimant qu'il n'avait violé aucune loi de son pays en amenant des habitants libres nés de celui-ci dans cette partie de ses possessions, refusa de se soumettre à cette exigence arbitraire. Son opposition, cependant, se révéla vaine. Un emprisonnement de 4 jours suffit à vaincre son sentiment d'indépendance et à le réduire à l'obéissance. Les autorités de Boston, ardentes dans leur zèle, adoptaient tous les moyens d'assurer la colonie contre l'influence du cacrisme, adressèrent l'ordre suivant aux gardiens de la prison. « Vous êtes, par la présente, tenus de garder les Quakers précédemment confiés à votre garde comme des personnes dangereuses, s'employant avec industrie à mettre en œuvre toute leur capacité pour séduire le peuple de cette juridiction, tant par parole que par lettre, en faveur des abominables doctrines des Quakers, et de les tenir étroitement prisonniers. » Edward Rawson, secrétaire. 18 août 1656 par la suite, le geôlier reçut aussi l'ordre de fouiller, aussi souvent qu'il le jugerait nécessaire, les boîtes, coffres et effets des Quakers précédemment confiés à sa garde, à la recherche de plumes, d'encre et de papier et de livres, et de les leur prendre. La conduite extraordinaire que les dirigeants du Massachusetts avaient adoptée dans la poursuite des Quakers s'opposait non seulement aux lois de la métropole, mais encore ne reposait sur aucune des lois de la colonie. Les autorités de Boston, aussi empressées qu'elles fussent dans l'œuvre de persécution, n'étaient pas aveugles à leur situation à cet égard, et c'est ici que nous les voyons s'efforcer avec anxiété de promouvoir des mesures visant à légaliser leurs procédés iniques. Le 2 du 7e mois 1656, le gouverneur et les magistrats de la Charte de Boston s'assemblèrent et préparèrent une lettre adressée au commissaire des Provinces Unies, qui devait se réunir à Plymouth. Ils y recommandaient que certaines règles générales soient proposées à chaque cour générale, pour empêcher que ne viennent parmi nous, depuis des contrées étrangères, de tels hérétiques notoires que les Quakers, les Rantais, etc. La question ayant ainsi été portée devant les commissaires, l'assentiment de ce corps fut obtenu pour établir une loi, afin de justifier la conduite suivie par les dirigeants de Boston et de légaliser l'intolérance à venir. Ils convinrent de proposer aux diverses cours générales que tous les Quakers, Rantais et autres hérétiques notoires soient empêchés de venir dans les colonies unies, et que si quelqu'un devait désormais venir ou s'élever parmi nous, il soit aussitôt saisi ou expulsé de toutes les juridictions. Encouragés par la recommandation des commissaires, les autorités de Boston adoptèrent bientôt une loi pour bannir les Quakers de leur territoire. Cette mesure persécutrice fut la première en Amérique visant spécialement la société. Elle est ainsi conçue, à une cour générale tenue à Boston, le 10 octobre 1656. Attendu qu'il existe une secte maudite d'hérétiques, récemment surgie dans le monde, communément appelée Quakers, qui prétend être envoyée immédiatement par Dieu et assistée infailliblement par l'Esprit pour parler et écrire des opinions blasphématoires, méprisant le gouvernement et l'ordre de Dieu dans l'Église et la communauté, parlant mal des dignités, injuriant et vilipendant magistrats et ministres, cherchant à détourner le peuple de la foi et à gagner des prosélytes à leur voie pernicieuse, cette cour, prenant en considération ce et faute de bon paiement ou de bonne caution à cet effet, il sera jeté en prison et y restera jusqu'à ce que ladite somme soit acquittée auprès du trésorier comme dit ci-dessus. Et le commandant de tout ketch, navire ou bâtiment, d'hume reconnu coupable, donnera une caution suffisante au gouverneur ou allons plusieurs des magistrats ayant pouvoir d'en juger de les ramener au lieu d'où il les a amenés. Et s'il refuse de le faire, le gouverneur ou l'un ou plusieurs des magistrats sont par la présente habilité à délivrer mandat pour faire emprisonner un tel maître ou commandant. Et il y restera jusqu'à ce qu'il fournisse une caution suffisante à la satisfaction du gouverneur ou de l'un des magistrats susdits. Et il est en outre ordonné et décrété par la présente que tout Quaker qui arrivera dans ce pays en provenance de contrées étrangères ou qui viendra dans cette juridiction depuis des régions adjacentes sera promptement envoyé à la maison de correction et à son entrée sévèrement fouetté, et il sera tenu par le maître des lieux à un travail constant, et nul ne sera autorisé à converser ni à parler avec lui durant le temps de son emprisonnement, qui ne sera pas plus long que la nécessité ne l'exigera. Et il est ordonné que si quelqu'un importe sciemment dans un port de cette juridiction des livres de Quakers ou des écrits relatifs à leurs opinions diaboliques, il paiera pour chaque livre ou écrit d'une prouvée contre lui la somme de 5 livres, et quiconque dispersera ou cachera un tel livre ou écrit, et qu'on le trouvera en sa possession ou dans sa maison, et ne le remettra pas immédiatement au magistrat le plus proche, perdra ou paiera 5 livres pour la dispersion ou la dissimulation de chaque livre ou écrit de ce genre. Et il est en outre décrété par la présente que si quelqu'un au sein de cette colonie entreprend de défendre les opinions hérétiques des Quakers, ou l'un quelconque de leurs livres ou papiers susdits, s'il est légalement prouvé, il sera condamné la première fois à une amende de 40 shillings, s'il persiste et le défend de nouveau une seconde fois à 4 livres, et si nonobstant il défend et soutient encore les dites opinions hérétiques des Quakers, il sera envoyé à la maison de correction jusqu'à ce qu'il y ait un avis convenu. Enfin, il est ordonné par la présente que toute personne ou personne qui vilipenderont les personnes des magistrats ou des ministres, comme il est d'usage chez les Quakers, seront sévèrement fouettés ou paieront la somme de 5 livres. Ceci est une copie conforme de l'ordonnance de la Cour, comme en atteste. Edward Rawson, secrétaire, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Matt 10, 22. L'adoption de la loi précédente selon la procédure ordinaire, ainsi que sa reconnaissance officielle dans les recueils de lois de la colonie, était, aux yeux de ses partisans, un moyen trop subtil de faire passer la mesure. Il leur paraissait important que les colons du Massachusetts soient profondément impressionnés par le caractère effrayant de la « secte maudite » et par les conséquences dangereuses auxquelles ils s'exposeraient si de tels et hérétiques blasphémateurs étaient autorisés à venir parmi eux. Au son du tambour, donc, afin d'attirer l'attention de la population, la loi en question fut, quelques jours plus tard, proclamée publiquement dans les rues de Boston, produisant un degré d'excitation et d'agitation sans précédent. Revenant aux amis emprisonnés, nous trouvons qu'à mesure que l'heure de leur embarquement approchait, des officiers, en vertu des dispositions d'un autre mandat, ordonnèrent la saisie des biens des prisonniers pour le paiement des frais du geôlier, en exécution de quoi toute leur literie fut prise. Dans cet état, non préparé pour une traversée du vaste Atlantique, les victimes furent inhumainement poussées à bord du navire qui allait appareiller, et si leurs effets n'avaient pas été charitablement rachetés par certains habitants, touchés de compassion pour leur détresse, ils auraient été contraints de partir ainsi, sans provision, des rivages d'Amérique. Après un emprisonnement d'environ 11 semaines, et au 8e mois 1656, les amis furent emmenés loin de Boston, et après avoir traversé l'océan sans incident, ils débarquèrent à Londres. Ainsi se termina la seconde tentative des membres des Quakers pour prêcher l'Évangile sur le continent du monde occidental. Les détails qui précèdent sur la persécution puritaine en Nouvelle-Angleterre concernent le traitement infligé à ceux qui venaient comme étrangers dans ce pays. Notre attention va maintenant se porter sur les cruautés exercées envers des colons, qui avaient été convaincus que les principes des Quakers bannis s'accordaient avec les doctrines et les préceptes du Christ. Dans le récit du traitement que Mary Fisher et Anne Austin reçurent à Boston, il est fait allusion à la conduite chrétienne d'un habitant âgé du lieu, qui fournissait à ses femmes persécutées des provisions pendant leur emprisonnement. Cet homme était Nicholas Upshull, dont nous avons maintenant à rapporter les souffrances, au titre du témoignage de conscience qu'il rendit contre les procédés iniques et arbitraires de ses compatriotes. Il avait longtemps été habitant et homme libre de Boston, était un chrétien zélé et fidèle, et un homme qui, dès ses jeunes années, avait joui d'une grande estime comme ayant une « conduite sobre et innocente ». Il avait été puritain par profession religieuse, et dans la prospérité de la congrégation particulière à laquelle il appartenait, il s'était profondément intéressé pendant de longues années. Mais les formes et cérémonies de son Église, lui, étaient depuis quelque temps devenues pesantes. Il en avait ressenti l'insuffisance à satisfaire l'âme dans son désir et sa soif de Dieu, et il était prêt à recevoir des vues plus spirituelles de la vérité religieuse. Lorsque donc, par ses recherches, il constata que les vues des étrangers persécutés, qui renonçaient à toutes les observances extérieures en religion, conduisaient avec force à l'apparition intérieure du Christ, comme consolation et force du chrétien, et comme guide et conducteur de son peuple en tout lieu, cela trouva un écho en son sein, et il fut grandement réconforté. La loi cruelle, promulguée en Nouvelle-Angleterre contre les amis, et qui avait été annoncée avec ostentation aux habitants de Boston au son du tambour, affecta profondément l'esprit de ce brave homme. Étant donc affligé dans son cœur, dans l'idée que ses actes injustes seraient suivis des justes jugements du Trésor, lorsque la proclamation de la loi fut faite devant sa propre porte, il se sentit contraint d'élever publiquement la voix pour désapprouver cet acte. Il souhaitait vivement que ses concitoyens sachent qu'il se désolidarisait de procédures entièrement contraires au caractère de la vraie religion. La conduite consciencieuse de ce vénérable colon fut considérée par les dirigeants persuadés de leur propre justice comme une grave offense à leur autorité et comme une faute appelant une sévérité exemplaire de la part du tribunal. Le lendemain matin, il fut donc cité à comparaître devant eux pour répondre de l'accusation portée contre lui d'avoir exprimé sa désapprobation de la loi contre les Quakers. Ainsi traduit, Nicholas Upshull, avec beaucoup de tendresse et d'amour, supplia ses concitoyens au sujet de la voie inique qu'ils suivaient et les avertit de prendre garde, de peur qu'ils ne se trouvent en train de combattre contre Dieu. Les magistrats restèrent insensibles à son appel et, déterminés à étouffer toute remise en question de leurs actes, le condamnèrent à une amende, l'emprisonnèrent et le bannirent de la colonie. L'amende était de 20 livres, et le temps qui lui fut accordé pour se préparer à l'expatriation n'était que de 30 jours, dont il passa 4 en prison. Il fut aussi frappé d'une amende supplémentaire de 3 livres pour ne pas avoir fréquenté le lieu habituel de culte alors qu'il était sous le coup d'une sentence de bannissement. Le moment était venu pour Nicholas Upshull de faire ses adieux définitifs à une ville, mémorable pour lui-même et pour d'autres anciens habitants, comme un lieu de refuge, qu'au prix de nombreuses épreuves et difficultés, ils avaient cherché dans les contrées sauvages du monde occidental, fuyant la persécution au pays. Le colon faible et âgé, laissant sa femme et ses enfants, vers la fin du 10e mois, se dirigea vers le sud dans l'espoir de trouver asile à Sandwich, dans la colonie de Plymouth. Le gouverneur de cette colonie avait, semble-t-il, été informé de son intention et, désirant aider à chasser les Quakers du Massachusetts, avait délivré un mandat interdisant aux habitants de Sandwich de l'héberger. Les habitants de la ville, cependant, n'étaient pas disposés à fermer leurs portes à un malheureux. Beaucoup d'entre eux avaient trop de respect pour les préceptes du christianisme pour abandonner, au cœur d'une saison hivernale rigoureuse, l'étranger sans toit et âgé, et Nicholas Upshull trouva facilement un foyer parmi eux. Mais l'hospitalité du peuple au bon cœur de Sandwich déplut à leur gouverneur qui, voulant avoir cette victime de l'intolérance sacerdotale plus immédiatement à sa portée, émit un mandat spécial le sommant de comparaître devant lui à Plymouth. La rigueur de l'hiver, jointe à l'état précaire de la santé de Nicholas Upshull, mettrait, pensait-il, sa vie en danger s'il tentait d'obéir à la convocation. Il conclut donc sagement de ne pas s'y conformer et informa le gouverneur par lettre que, si le mandat était exécuté et qu'il périssait, son sang lui serait redemandé. On suppose que sa résolution de ne pas quitter Sandwich fut encouragée par les habitants, par lesquels aussi, semble-t-il, la maréchaussée fut empêchée d'exécuter le mandat, et que certains des magistrats les plus modérés penchaient pour la même conduite. Au début du printemps suivant, toutefois, les autorités de Sandwich, à la sollicitation incessante du gouverneur, résolurent que l'homme banni devrait trouver un foyer ailleurs. À l'annonce de cette résolution, l'attention de l'exilé se tourna vers Rhode Island comme vers un lieu sûr. Il savait que ses colons d'esprit libéral lui permettraient de demeurer parmi eux, pourvu qu'il pût atteindre leur sol libre. Il s'y essaya et, à travers bien des difficultés et des dangers, aborda enfin à Newport, leur principale ville. Là, son bannissement devint le sujet général des conversations. Les Indiens sans instruction, qui s'attardaient encore près des demeures de l'homme blanc, entendirent le récit avec des sentiments de tristesse. Et l'un d'eux, touché par la dureté de son sort, lui offrit un foyer parmi sa tribu et promit que, s'il venait vivre avec lui, il lui ferait une bonne maison bien chaude. Un autre chef, dont l'esprit contemplatif l'amenait à réfléchir au caractère de cette religion qui pouvait pousser ses adeptes à de tels actes d'inhumanité, fut entendu s'écrier « Quel Dieu ont donc les Anglais pour agir ainsi les uns envers les autres à propos de leur Dieu ?» La tyrannie, qui avait marqué la conduite des dirigeants du Massachusetts, commença à ouvrir les yeux de nombreux colons sur l'incongruité entre l'esprit qui poussait à de tels actes et celui de la religion bienveillante de Jésus-Christ. Malgré les efforts ardents des prêtres et des dirigeants, au moyen des clauses rigoureuses de leur loi contre les Quakers, pour empêcher l'introduction de leur doctrine, le désir s'éveilla dans l'esprit de plus d'un de mieux connaître les enseignements et les pratiques d'une secte dont la présence même était jugée inconvenante parmi eux. Et ainsi, très bientôt, une connaissance plus ou moins répandue des doctrines Quakers se diffusa dans toutes les colonies de la Nouvelle-Angleterre. Parmi ceux-ci, comme dans la mère patrie, on trouvait des individus pieusement disposés, largement préparés à recevoir les vues simples et spirituelles du christianisme telles que les professaient les amis, et certains, très tôt, s'unirent à eux dans la communion religieuse. D'autres remarques sur ce point intéressant seront données dans un chapitre futur. Suite des premiers Quakers américains, le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu à travers la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.